Donc je vais vous parler des psychotropes et tout d'abord un petit rappel sur les syndromes douloureux chroniques. Alors, le dénominateur commun des douleurs chroniques, c'est-à-dire les douleurs que nous sommes amenés à avoir le plus souvent en rhumatologie, c'est que cette douleur est associée à une incapacité fonctionnelle et à une altération de la qualité de vie. Ce qui veut dire que le but du traitement ne saurait être simplement la diminution de la douleur, parce qu'à ce moment-là, le meilleur antalgique serait l'anesthésie générale, mais également une restauration, du moins une amélioration des capacités fonctionnelles et parallèlement une amélioration de la qualité de vie. Ce qui veut dire enfin que lorsque l'on fait des essais cliniques, on ne doit pas prendre l'échelle visuelle analogique comme critère principal, mais réellement un critère composite qui prenne en compte à la fois la douleur et l'incapacité fonctionnelle et éventuellement la qualité de vie. Deuxième bref rappel, vous savez que les douleurs sont classées en trois grandes catégories. Il y a les douleurs nociceptives, celles qui sont finalement les plus communes en rhumatologie. Les douleurs neuropathiques dont on parle souvent et qui sont dues à une atteinte nerveuse périphérique ou centrale. Et puis il y a les fameuses douleurs cinématéria, c'est-à-dire des douleurs pour lesquelles on n'a pas identifié de lésions anatomiques qui soit susceptible d'expliquer le tableau du malade. Et au sein de ces douleurs cinématéria, on a isolé les douleurs idiopathiques, sachant que un certain nombre de syndromes douloureux sont bien décrits, même si on n'en connaît pas l'étiologie. Et parmi ces syndromes assez courants, vous avez le syndrome du côlon irritable, et puis plus proche de nous en rhumatologie, le syndrome fibromyalgique. Et on admet que ces douleurs sont sous-tendues par une hypersensibilité centrale, ce qui d'ailleurs tend à apparenter ces douleurs cinématéria idiopathiques aux douleurs neuropathiques, avec les conséquences que ça a sur la prise en charge et notamment l'utilisation des médicaments pour soulager les malades. Et enfin, on sait que dans tout état douloureux chronique, il y a toujours une composante psychique, qui d'ailleurs parfois est au premier plan, qui est susceptible de participer, d'entretenir, d'aggraver, voire de générer le syndrome douloureux. Et on sait par exemple qu'au cours des lombalgies chroniques communes, dites aspécifiques, eh bien la composante psychique est au premier plan. Alors quels sont les médicaments que nous allons utiliser, quels sont les psychotropes qu'on va utiliser? Eh bien on utilise tout d'abord des antidépresseurs. Et de façon tout à fait simple, je vous rappelle que les antidépresseurs les plus utilisés se subdivisent en trois grands groupes, avec les plus anciens d'entre eux, qu'on appelle habituellement de manière un peu erronée les tricycliques, et qui sont donc les imipraminiques, qui ont comme caractéristique d'agir à la fois sur la recapture ou le recaptage, je ne sais pas lequel est le plus juste ou le moins faux, de la norépinéphrine, de la sérotonine, et qui ont également des propriétés anticholinergiques et antihistaminiques H1 qui participent à leurs effets indésirables. Parmi ces médicaments, vous avez reconnu des médicaments qui ont l'indication, du moins en France, dans les douleurs neuropathiques. C'est essentiellement l'amitriptyline, donc le Laroxyl, l'anafranil et le tofranil. À l'opposé, vous avez les antidépresseurs qui sont très sélectifs de la recapture de la sérotonine. Et ces médicaments, vous le savez, n'ont pas d'indication parce que pas d'efficacité démontrée dans les douleurs neuropathiques. Et enfin, depuis plus récemment, on a des antidépresseurs qui sont plus proches des imipraminiques parce qu'ils agissent à la fois sur la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine, mais qui n'ont pas l'inconvénient d'avoir des propriétés anticholinergiques, parmi lesquelles vous retrouvez la duloxétine, qui a l'indication des douleurs neuropathiques, le Cymbalta, le milnacipran XL, et enfin la valafaxine, donc l'Effexor. Alors tout d'abord, on va commencer par une des pathologies les plus fréquentes en rhumatologie, qui est la lombalgie chronique commune, donc aspécifique. Et en 2002, une méta-analyse avait été réalisée, qui est encore d'actualité, même si un certain nombre d'autres essais ont été réalisés depuis. On peut tout d'abord remarquer que les essais qui ont été faits à l'époque, c'était des essais de courte durée, 1-2 mois au maximum, et qu'ils incluaient des malades déprimés le plus souvent, mais la dépression est très souvent associée, plus ou moins marquée d'ailleurs, à la lombalgie commune, et les posologies d'antidépresseurs utilisées étaient véritablement antidépressives. Manque de chance, il n'y avait que 3 essais sur 9, donc un tiers d'entre eux qui étaient de bonne qualité, or vous savez que plus un essai est mauvais, plus les résultats sont bons. L'efficacité globale sur la douleur, eh bien, la quantité d'effet, donc par rapport au placebo, a été jugée globalement comme modeste, mais cliniquement perceptible, cliniquement significative. En revanche, cette diminution de la douleur ne s'est pas franchement accompagnée d'une augmentation des activités usuelles, donc d'une amélioration des capacités fonctionnelles, mais, et c'est d'une manière rassurante, c'est rassurant, les antidépresseurs marchent effectivement dans la dépression. Et dans la lombalgie chronique commune, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les sélectifs, ne marchent pas, comme ils ne marchent pas d'ailleurs au cours des douleurs neuropathiques, comme je vous l'avais dit. Un antidépresseur plus récent, donc la duloxétine, connue sous le nom de Cymbalta, a également été testé dans cette même pathologie, à des posologies variables, 20 mg, 120 mg et 60 mg. 60 et 120 mg, c'est les posologies considérées comme efficaces. Et la duloxétine a été comparée au placebo pendant 3 mois, donc déjà un essai plus long, avec des résultats, là encore, mitigés, puisque il n'y avait pas d'efficacité véritable sur la douleur par rapport au placebo, c'est-à-dire que l'amélioration dans les deux groupes était similaire. En revanche, il y avait un petit effet sur l'incapacité fonctionnelle telle qu'elle est appréciée par l'échelle d'incapacité fonctionnelle des lombalgies, donc l'EFEL, mais cette efficacité était pour le moins modérée puisque vous voyez l'amélioration par rapport au placebo était inférieure à 2 points sur une échelle qui en comporte 24. Et puis il y a le grand domaine du syndrome fibromyalgique. Le grand domaine du syndrome fibromyalgique et on a eu dans la même année 2 méta-analyses qui ont été réalisées sur le laroxyl, qui reste l'antidépresseur de référence dans la fibromyalgie. La première méta-analyse, parue dans notre revue phare Arthritis et Rhumatisme en 2008, montrait que le laroxyl, aux doses habituellement utilisées, c'est-à-dire 25 mg jusqu'à 50 mg, on utilise rarement des posologies au-delà, parce que, ne serait-ce que parce que les malades ne la supportent pas, eh bien l'amitriptyline est effectivement efficace sur diverses composantes du syndrome fibromyalgique, comme la douleur, la fatigue, les troubles du sommeil et la tendance dépressive, qui, vous le savez, est fréquente. Avec une amélioration de la qualité de vie qui n'est quand même pas négligeable puisqu'elle est de l'ordre de 30% par rapport au placebo, manque de chance, cette efficacité était évaluée à court terme, donc à 2 mois. Or, nous savons qu'un des problèmes du traitement du syndrome fibromyalgique, en dehors de l'efficacité aléatoire des traitements, c'est que cette efficacité est souvent évanescente, elle tend à s'épuiser lorsqu'on continue d'utiliser les médicaments. Une deuxième méta-analyse a été réalisée la même année, qui confirme en gros les données de la première, mais qui tend à faire croire que la posologie plus élevée d'amitriptyline, de laroxyl, est moins efficace que la posologie de 25 mg. En fait, c'est typiquement un artefact, tout simplement parce qu'il y avait très peu d'essais, donc très peu de malades, donc un manque de puissance. Mais donc, l'intérêt de cette deuxième méta-analyse, c'est qu'elle montre ce que l'on vérifie d'ailleurs en clinique, c'est que l'efficacité s'épuise avec le temps, et qu'au-delà de 2 mois, eh bien, on n'a pas d'amélioration significative sous amitriptyline. La duloxétine, donc le Cymbalta, a également été essayé dans la fibromyalgie. D'ailleurs, il y a l'indication dans ce syndrome aux États-Unis. Et il y a eu 2 grands essais qui ont comparé, d'une part, la dose maximale de Cymbalta, 120 mg au placebo, sur une durée de 3 mois, donc c'est déjà un peu plus correct que le précédent, et qui a montré que finalement, ce Cymbalta, finalement, a une efficacité sur la douleur, mais vous voyez, l'efficacité, c'est moins d'un point sur une échelle visuelle analogique de 10, c'est quand même pas beaucoup, et surtout, une efficacité sur un critère composite qui inclut la douleur, l'incapacité fonctionnelle et le retentissement sur l'humeur, qui est le FIQ, qui est une efficacité alors de l'ordre de 5 points, mais sur 80. Et ce qu'on savait déjà, c'est que très peu de malades peuvent poursuivre le traitement puisque près de la moitié d'entre eux qui sont sous duloxétine vont sortir de l'essai essentiellement pour des effets indésirables. La deuxième étude qui a connu un schéma à peu près analogue a montré la même chose, mais que simplement que la dose de 20 mg n'était pas efficace, et là encore on retrouve un nombre de sorties d'essai assez important, un tiers à 42% des malades qui prennent la duloxétine. Deuxième type de psychotropes que nous employons en rhumatologie, ce sont les antiépileptiques et au premier rang desquels les benzodiazépines. Alors il y en a une qui est utilisée depuis très très longtemps, c'est le tétrazépam, le miolastan, qui a comme indication les contractures musculaires douloureuses en rhumatologie. Donc vous voyez, c'était à l'époque où on faisait des indications extrêmement larges, et qui finalement ne recouvre pas d'entité morbide bien identifiée. Lorsqu'on regarde l'efficacité du myolastan, que ce soit dans la cervicalgie aiguë ou dans la lombalgie aiguë, eh bien par rapport au placebo, il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs, ce médicament a plus d'inconvénients qu'il n'a d'avantages, et en principe, il devrait être déremboursé dans l'indication qui lui est reconnue actuellement. Un autre médicament antiépileptique, le clonazépam, donc le rivotril, est très largement utilisé dans la douleur neuropathique. Il n'y a pas d'essai, mais il y a suffisamment de données empiriques pour dire que ça marche chez pas mal de malades, et on sait que dans la douleur neuropathique, les faibles doses de rivotril peuvent soulager les malades, avec l'inconvénient des benzodiazépines, c'est-à-dire qu'on a souvent du mal à sevrer ses patients une fois qu'on a commencé le traitement et qu'on l'a prolongé pendant plusieurs semaines. Des antiépileptiques plus modernes, ce sont les analogues du GABA, la gabapentine, que vous connaissez sous le nom de Neurontin et ses génériques maintenant, et la pregabaline, qui ont des indications dans l'épilepsie, partielle du moins, dans la douleur neuropathique et dans le trouble anxieux généralisé pour la pregabaline. Je ne sais pas ce qu'est un trouble anxieux généralisé. La gabapentine a également été utilisée en rhumatologie, et donc le Neurontin, et je vous liste un certain nombre d'essais qui ont été réalisés dans des pathologies dont on sait qu'on a du mal à les traiter par les antalgiques classiques. Dans la lombalgie chronique commune, eh bien une dose de 1,2 g de Neurontin, ça ne fait pas mieux que le placebo. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté à 1,2 g? Parce que tout simplement, celui qui a fait l'essai a dit qu'au-delà de 1,2 g, les gens ne supportent pas, ce qui est vrai pour la plupart des malades. Dans la lombosciatique chronique, qui est une entité qui existe dans certaines revues, eh bien, à des doses qui sont cette fois-ci des doses conséquentes, 3,6 g, je n'ai jamais vu de malade sous 3,6 g de Neurontin, mais toujours est-il que dans l'essai, ils sont arrivés jusque-là, c'est supérieur au placebo. Dans le canal lombaire étroit, eh bien, une posologie intermédiaire, 2,4 g, a montré un intérêt à la fois sur la douleur et surtout montré une amélioration du périmètre de marche. Et ça, c'est donc intéressant parce que non seulement le malade souffre moins, mais améliore ses capacités fonctionnelles. Dans l'algodystrophie rebelle également, vous savez que nous sommes très ennuyés pour traiter l'algodystrophie. Rebelle, j'ai mis des guillemets parce que comme il n'y a pas de traitement codifié, du moins sur le plan pharmacologique, eh bien on ne sait pas ce que les malades ont eu auparavant. Mais à 1,8 g de gabapentine, eh bien il n'y a pas eu de différence nette par rapport au placebo. Enfin, il y a un essai qui suggère que la gabapentine pourrait être efficace dans le syndrome fibromyalgique, à des posologies comprises entre 1,2 g et 2,4 g, avec une efficacité à la fois sur la composante douloureuse, mais également sur la composante fatigue, diminution des activités usuelles de la fibromyalgie. Le dernier à avoir été testé dans la fibromyalgie, c'est la pregabaline, donc le Lyrica. Et il y a eu 3 essais. Le Lyrica est comme le milnacipran et comme à l'indication aux États-Unis pour le traiter de la fibromyalgie. 3 essais randomisés versus placebo qui ont duré 2 à 3 mois, qui ont montré que la pregabaline, le Lyrica, pourrait être efficace dans la fibromyalgie à condition d'utiliser un des posologies au moins de 300 mg par jour. Mais il y avait un essai dans lequel la posologie de 300 mg par jour n'avait pas montré de différence par rapport au placebo, mais surtout à 450 et 600 mg par jour. Cette efficacité antalgique est pour le moins modeste. On gagne 0,5 à 1 point versus placebo sur une échelle de 10 points. Et puis, surtout, cette efficacité sur la douleur ne s'accompagne pas franchement d'une amélioration des capacités fonctionnelles. Et lorsqu'on regarde ces essais qui montrent que la pregabaline pourrait être efficace dans la fibromyalgie à des doses supérieures à 300 mg et qu'on essaie de voir ce que les malades supportent en pratique quotidienne, comme ça a été fait aux États-Unis, eh bien on s'aperçoit qu'un grand nombre de malades ne supportent pas des doses au-dessus de 150 mg et que personne ne supporte la dose de 450 mg par jour, du moins sur les 126 malades qui ont été inclus. Et effectivement, dans notre pratique, nous le voyons tous les jours, les malades ne tolèrent pas les doses réputées efficaces. Les principaux effets indésirables, ce sont les principaux responsables des arrêts de traitement, vous les connaissez tous, ce sont essentiellement des effets neurologiques centraux, des effets neurosensoriels, auxquels s'ajoutent souvent une prise de poids et des bouches sèches, etc. Je n'insisterai pas. En gros, si on essaie de faire la synthèse, puisque voilà, mon temps de parole est écoulé, l'efficacité modeste et partielle dans la lombalgie chronique pour les antidépresseurs imipraminiques, une efficacité toujours modeste et partielle dans le syndrome fibromyalgique, du moins pour les antidépresseurs et en premier rang desquels le laroxyl et peut-être un petit peu pour les analogues du GABA, des effets indésirables extrêmement fréquents et les sorties d'essai sont supérieures à 30%. Et d'ailleurs, on peut se demander également quelle est la valeur du double aveugle dans ces essais, puisque il y a plus de 70% des malades qui ressentent des effets indésirables lorsqu'ils sont traités par des antidépresseurs, surtout des analogues du GABA. Et les posologies efficaces sont souvent équivalentes à celles que l'on retrouve dans les douleurs neuropathiques ou dans les indications neuropsychiatriques, sauf peut-être pour la mitriptyline. En conclusion, un bénéfice volontiers modeste dans les douleurs neuropathiques avérées et dans la fibromyalgie, et le rapport efficacité-tolérance des médicaments les plus récents, qu'il s'agisse du Cymbalta ou du Lyrica, n'est pas supérieur et, par expérience, je dirais, est inférieur à celui des produits les plus anciens. Je vous remercie. Dans le syndrome fibromyalgique, et même dans les douleurs neuropathiques, je crois qu'on peut rester fidèle à la mitriptyline. Le grand avantage de l'aroxyl, c'est qu'on peut ajuster la posologie à la goutte près. Et il faut commencer à très faible dose, puisque vous le savez que la réponse est assez imprévisible selon les malades, et donc on a souvent l'habitude de commencer par 8 à 10 mg le soir, donc ça fait 10 gouttes, et d'augmenter très lentement, par palier de 2-3 jours. Il ne faut pas être trop pressé, parce que si on augmente trop vite, eh bien, les effets indésirables se manifestent trop rapidement, les gens arrêtent le traitement. Le vrai problème de ces médicaments, c'est bien entendu leur efficacité, le maintien de leur efficacité. Et on sait que pour beaucoup de ces syndromes, le médicament est une petite aide au traitement, et que la prise en charge non médicamenteuse est certainement plus importante.
Si tu me permets, dans mon expérience, vraiment, ce qu'on trouve souvent de désarmant, c'est le manque d'explications qu'ont eu ces malades. Et très souvent, en fait, on a une quête terrible au diagnostic, avec de multiples consultations, de multiples intervenants différents. Chacun y va d'un examen de plus, parce que c'est plus rapide de prescrire une nouvelle IRM ou une nouvelle scintigraphie osseuse que de prendre un quart d'heure, 20 minutes pour expliquer ce qui se passe ou ce dont on peut être approximativement certain, compte tenu déjà de l'ampleur, enfin des dizaines de parcours. A priori, c'était une maladie gravissime qui devait conduire au trépas dans les 6 mois, ça se saurait. Et très souvent, en fait, c'est un énorme déficit d'explication. Moi, dans l'expérience que j'en ai, je trouve que probablement, ce qu'il y a de moins décevant, c'est la prise en charge physique, avec de plus en plus qui se propose actuellement, que ce soit dans les cures thermales, là, je reconnais quelques d'aqua dans la salle, ou ce que propose un rééducateur là, à Bordeaux, je ne vais pas citer le centre, mais tout le monde le connaît, des prises en charge où on prend plusieurs malades en même temps, où les gens peuvent discuter entre eux, peuvent constater, échanger sur leur parcours réciproque. Je crois que ça c'est quand même certainement au moins aussi efficace que la prise en charge médicamenteuse, et probablement avec un risque iatrogène moins important.
Parce que si vous voulez, le temps que ça agisse, c'est des semaines. Hein. Les douleurs, c'est des douleurs neuropathiques, hein, qui ont une indication pour les psychotropes. Et puis certains syndromes, comme je voulais montrer. À ma connaissance, je vois pas quel type de douleur aiguë pourrait relever d'un psychotrope.
Tout d'abord, j'espère que personne n'a fait de surdosage en psychotrope, et donc je vais vous parler de l'intérêt d'un traitement précoce de la polyarthrite rhumatoïde. Alors, pourquoi un traitement précoce? Tout d'abord, vous pouvez le voir sur ce petit diagramme. Plus vous débuterez tôt un traitement efficace de votre polyarthrite rhumatoïde, plus vous aurez de chances que votre patient rentre en rémission. Donc il est très important que, dès que les premiers signes cliniques se sont installés, d'introduire un traitement qui s'avérera efficace plus souvent lorsqu'il est introduit précocement. Pourquoi ? Puisque probablement que la maladie a débuté des années avant les premiers signes cliniques, et il sera donc intéressant d'essayer d'arrêter cette boucle inflammatoire responsable de la maladie. Alors pourquoi il s'agit de traiter vos patients. Pourquoi il est important de traiter vos patients? Tout d'abord, bien sûr, pour soulager leur douleur, pour améliorer leur qualité de vie, et aussi pour prévenir leur pronostic fonctionnel et prévenir donc des lésions structurales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 40% des patients développent des érosions articulaires durant les 6 premiers mois de la maladie. Et comme vous pouvez le voir ici, 60% à 1 an et 75% à 2 ans. Donc ici, vous voyez un pied avec des destructions et des érosions au niveau de vos métatarsaux phalangiennes. Il sera donc important de débuter un traitement précocement. Encore une fois, vous voyez que les destructions radiologiques vont s'installer très rapidement après le début de la maladie et seront majeures au cours des premières années de la maladie pour après arriver sur une phase un petit peu plateau où vous aurez des destructions beaucoup moins impressionnantes au cours de la maladie. Une autre diapo pour vous montrer que plus vous débuterez un traitement précoce, plus au cours des années futures, vous obtiendrez un meilleur pronostic fonctionnel. C'est-à-dire que si vous débutez un traitement précocement, déjà vous gagnez cette période, mais après vous voyez bien que même le fait d'avoir initié le traitement, vous n'allez pas regagner le même pronostic au cours des prochaines années. C'est-à-dire que vous n'avez pas une ligne parallèle à ce niveau-là. C'est-à-dire que les premiers mois de gagner permettent aussi tout au long des futures années d'obtenir un meilleur pronostic fonctionnel. Alors bien sûr, tout ceci s'inscrit un petit peu dans la même thématique, c'est-à-dire que prévenir les lésions radiologiques, c'est aussi améliorer la maladie et diminuer l'activité de cette maladie. Donc ça, je vous explique de suite, en fait, le DAS28, il s'agit d'un score que nous utilisons en rhumatologie qui permet en fait de compter le nombre d'articulations douloureuses, le nombre d'articulations gonflées, la vitesse de sédimentation et un peu l'indice fonctionnel, l'échelle visuelle analogique de la maladie. Et ceci nous permet de scorer en quelque sorte l'activité de la maladie. Et on voit que plus la maladie est active, et plus la progression radiologique s'installera. Donc il est important, 1, de mettre en route un traitement précocement, et 2, d'être efficace sur la maladie, et donc de diminuer l'activité de la maladie pour prévenir les lésions radiologiques, et donc assurer un bon pronostic fonctionnel pour votre patient. Donc quels sont les traitements de fond conventionnels que nous avons en 2010 pour contrôler nos patients ? Traitement de fond conventionnel que vous connaissez, et donc un petit intérêt particulier pour le méthotrexate, qui est désormais notre traitement préféré, que nous n'hésitons pas à débuter maintenant précocement, dès les premiers signes de la maladie. Traitement qui est bien toléré, qui nous permet d'adapter les doses à l'activité de la maladie. Et donc je dois bien sûr vous parler des traitements biologiques, qui sont donc les nouveaux traitements de la polyarthrite rhumatoïde, et qui en cas d'échec au méthotrexate nous permettront souvent de contrôler la maladie. Nous avons donc deux types de traitements, on va dire les anti-cytokiniques, c'est-à-dire qu'on va cibler des cytokines inflammatoires, donc avec les anti-TNF-alpha que nous utilisons depuis les années 2000, et un tout nouveau qui bloque l'interleukine 6, le tocilizumab, et d'autres traitements qu'on qualifiera d'anticellulaires, le rituximab qui détruit les lymphocytes B et l'abatacept qui empêche la discussion en fait en quelque sorte entre plusieurs cellules du système immunitaire. Alors, le problème c'est de savoir quand il faudra mettre en route ce traitement et quel est le traitement qu'il faut choisir. Donc je vais essayer de vous convaincre qu'il est indispensable de traiter précocement les malades et de les traiter de manière adaptée et donc de contrôler la maladie pour prévenir en fait l'évolution de cette maladie. Alors une première étude, vous voyez, qui date de 1997, donc avant l'ère des biothérapies, et déjà on remarquait que avec deux stratégies différentes, donc soit en bleu un traitement par salazopyrine seul au début de la maladie, soit un traitement un peu plus intensif qui associait de la salazopyrine mais du méthotrexate et des corticoïdes à forte dose au début. Après, toujours dans ce traitement intensif, les doses étaient rapidement diminuées pour atteindre seulement 7,5 mg de corticoïdes au bout de 28 semaines. Et vous voyez, on arrêtait même le méthotrexate à la 40e semaine. Donc ce qu'on remarque, c'est que très rapidement, bien sûr, quand on est plus agressif, on a une réponse clinique supérieure au bout de 16 semaines. Mais vous voyez qu'au bout de 40 semaines, en fait, quand on revient à un traitement par salazopyrine pour les deux groupes, on revient à une activité similaire. Donc vous direz, c'est peut-être pas particulièrement intéressant, mais ce qui est particulièrement intéressant pour nos patients, c'est le score de Sharp. Le score de Sharp, c'est un score qu'utilisent nos collègues pour chiffrer en fait les destructions radiologiques, et on s'aperçoit que dès la première année, on a une différence significative quand on traite intensément, et que cette différence va être marquée tout au long de l'évolution les 5 premières années. Une autre étude, l'étude BEST par des collègues néerlandais, qui va comparer 4 stratégies et donc un contrôle très strict, tight control, de la maladie. Donc je reviendrai en fait sur les 4 stratégies différentes. Il s'agit d'une étude randomisée multicentrique en simple aveugle, 508 PR, donc débutantes et agressives, puisqu'elles sont particulièrement actives et érosives. 4 groupes parallèles, encore une fois, je vais revenir dessus. Et cette fois-ci, vous voyez vos patients tous les 3 mois, et chaque fois que vous les voyez, vous allez ajuster votre traitement. Et votre objectif, c'est d'avoir donc cet indice d'activité de la maladie, qui est le DAS, le plus bas possible, et du moins inférieur à 2,4. Donc ces ajustements thérapeutiques seront réalisés tous les 3 mois, suivant l'activité de la maladie. Donc voici les 4 groupes. Vous avez soit un groupe standard de monothérapie séquentielle. Vous traitez votre patient rapidement par méthotrexate à 15 mg par semaine. Vous augmentez jusqu'à 25 mg. Si ça ne marche pas, vous avez la possibilité de arrêter le méthotrexate et de prendre un relais par salazopyrine, puis après par l'eflunomide. Et puis quand tout ceci échoue, vous reprenez le méthotrexate associé à de l'infliximab, donc un anti-TNF-alpha. Un autre groupe où cette fois-ci vous allez ajouter les traitements les uns après les autres, du méthotrexate, encore une fois vous avez le droit de l'augmenter jusqu'à 25 mg, et si vous n'obtenez pas de réponse adéquate, vous augmentez en rajoutant la salazopyrine, en rajoutant du plaquenil, et puis encore une fois, si échec, association méthotrexate, pardon, infliximab. Le même type de traitement que celui que je vous exposais au tout début, cette fois-ci on combine dès le début plusieurs traitements de fond. Donc méthotrexate, salazopyrine, prednisone. Et cette fois-ci, on augmente petit à petit le méthotrexate si on obtient un échec. Si on n'arrive pas à obtenir de réponse, on change de trithérapie. Et cette fois-ci, on utilise la cyclosporine à la place de la salazopyrine. Et encore une fois, en cas d'échec, possibilité méthotrexate plus anti-TNF-alpha. Et dernier en fait groupe qui associe le méthotrexate à forte dose avec, dès le début, un anti-TNF-alpha. Possibilité d'augmenter cet anti-TNF-alpha petit à petit. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que en fait l'association de plusieurs molécules, un traitement plus incisif dès le début, nous permet d'obtenir une bonne réponse clinique dès 3 mois de manière significative par rapport à des traitements séquentiels. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est les lésions radiologiques à 1 an. Vous voyez que si vous associez plusieurs molécules, vous avez 90% de chances d'avoir aucune progression radiographique. Ça, c'était à 1 an. À 5 ans, on retrouve toujours le même type de chiffres, avec l'intérêt d'un traitement agressif d'emblée qui permet de contrôler la maladie. Et ce contrôle de la maladie vous permettra d'avoir moins de lésions radiologiques à 5 ans. Encore une fois, vous voyez les 2 derniers piliers qui montrent les moindres lésions radiologiques. Encore une fois, quelque chose d'intéressant. Vous me dites, bien sûr, on prend un traitement agressif dès le début, mais vous voyez que ce traitement d'emblée intensif permet d'arrêter l'anti-TNF-alpha dans 56% des cas à 2 ans. Alors, bien sûr, la question, c'est faut-il mettre tous les malades sous anti-TNF d'emblée ? Je vais donner un petit début de réponse avec, vous voyez, 2 patientes qui ont été suivies dans le service, à peu près avec un développement de la polyarthrite rhumatoïde en même temps, qui ont donc eu des soins par la même équipe. Et vous voyez que malgré un traitement identique, les patients, non pas obligatoirement identiques, mais avec un raisonnement identique, les lésions radiologiques ne sont pas les mêmes quelques années après. Et donc il est très difficile au début de la maladie de savoir si votre patiente va évoluer vers une polyarthrite bénigne, une polyarthrite qui sera chronique et progressive, ou avec des poussées intermittentes de sa polyarthrite rhumatoïde. Alors qu'est-ce qui peut nous aider à prédire l'avenir d'une polyarthrite rhumatoïde? Donc bien sûr, si quand vous diagnostiquez la polyarthrite rhumatoïde, vous avez déjà des érosions articulaires, vous avez plus de chances qu'elle en fasse d'autres. L'importance de l'activité initiale, en fait, une polyarthrite rhumatoïde très inflammatoire au niveau clinique mais au niveau biologique, prédit en fait une évolution plus sombre sur le plan fonctionnel. La présence d'anticorps anti-CCP et de facteurs rhumatoïdes à des taux importants est aussi un facteur prédictif. Au niveau génétique, la présence de l'HLA-DR04 et puis d'autres marqueurs sont bien sûr en cours d'évaluation. Et donc, c'est ce qu'on disait depuis le début, le délai d'instauration du traitement initial, le bon suivi de ce traitement et le type de traitement va jouer sur le pronostic fonctionnel de votre patient. Donc, vous voyez que, par exemple, la CRP peut vous donner une petite idée de quel traitement vous pourrez discuter. Si vous voyez, si vous avez une CRP faible, la différence entre le méthotrexate et le méthotrexate associé à l'anti-TNF ne donne pas de franche différence sur le plan fonctionnel. En revanche, si votre polyarthrite rhumatoïde commence à devenir inflammatoire avec une CRP élevée, vous voyez qu'il y a un intérêt supérieur à associer l'infliximab et le méthotrexate sur le pronostic fonctionnel. Une étude en fait qui essayait de répondre à la question sur l'intérêt de mettre sous anti-TNF des polyarthrites rhumatoïdes débutants, naïves, alors avec 487 patients inclus, avec des mises sous méthotrexate à dose rapidement croissante jusqu'à 20 mg par semaine, et on revoit les patients à 3-4 mois, et si ils ont une polyarthrite rhumatoïde qui est bien contrôlée, on poursuit avec du méthotrexate. Si cette polyarthrite rhumatoïde est toujours active avec un score supérieur à 3,2, on a la possibilité soit d'associer plusieurs traitements de fond, soit de rajouter un anti-TNF. Et voici les résultats. Vous voyez en fait que les groupes de patients qui ont bien répondu au méthotrexate à 3 mois, donc avec une maladie qui n'était plus active au bout de 3 mois, ont un taux de rémission à 3 mois, donc de 60%, qui se maintient dans le temps. Le groupe de patients qui n'a pas répondu et qui a donc bénéficié d'associations thérapeutiques, on voit qu'il y a un intérêt supérieur à ajouter de l'infliximab qu'à ajouter de la salazopyrine et du plaquenil. Donc en conclusion, la grande majorité des PR, ça c'est le message qu'il faut retenir, la grande majorité des PR sera en rémission sous méthotrexate en monothérapie à 3 mois et le resteront à 1 an. Donc les patients avec une faible activité à 3 mois ont une évolution favorable. S'il y a une activité entre 2,6 et 3,2 du DAS28, une évolution reste possible. Il faudra bien sûr surveiller ces patients. Donc c'est ce qui se fait en pratique courante dans le service. Un traitement par méthotrexate est initié suite au diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde. Et c'est tout l'intérêt de voir votre patient à 3 mois pour savoir si vous contrôlez cette polyarthrite rhumatoïde et s'il faut continuer à mettre en route des traitements supplémentaires. 258 PR avec un DAS28 supérieur à 3,2 bénéficieront d'une meilleure réponse avec l'association à l'anti-TNF. Et donc on peut en fait individualiser des bons répondeurs précoces chez qui un traitement par méthotrexate sera suffisant et des mauvais répondeurs précoces qui bénéficieront d'un traitement par anti-TNF. Encore une fois, donc un traitement qui doit être initié précocement et un contrôle strict. En gros, c'est un petit peu calquer la prise en charge d'une polyarthrite rhumatoïde sur la prise en charge d'un diabète. Et en considérant que votre glycémie capillaire, c'est votre DAS28. Et que ce qui est important, c'est que votre DAS28 soit constamment le plus bas possible. Et donc, deux stratégies différentes. Soit une stratégie intensive où on vous dit que si votre patient revient vous voir et qu'il n'est pas bien contrôlé, vous allez associer petit à petit plusieurs traitements pour essayer d'obtenir une réponse. Une stratégie de routine plus conventionnelle où vous voyez votre patient tous les 3 mois et vous faites ce qui vous semble le plus adapté. Et on voit en fait que quand vous avez un groupe intensif, que vous voyez votre patient tous les mois, que vous, chaque fois que vous voyez votre DAS28 élevé, on vous dit de rajouter un traitement. Tout ceci va vous permettre d'obtenir une réponse clinique supérieure à un groupe où vous voyez votre patient moins souvent et vous allez avoir moins d'impératifs en termes de traitement. Et ce qu'on voit sur le plan clinique, on le voit très nettement aussi sur le plan radiologique. Un bon contrôle de votre polyarthrite rhumatoïde à 18 mois vous permettra d'avoir un meilleur pronostic fonctionnel. Alors au prix bien sûr de plus de corticoïdes, puisque ces patients, chaque fois qu'ils voyaient leur médecin tous les mois, il y avait possibilité de réaliser des infiltrations au niveau des articulations gonflées. Et dernière petite étude, en fait il s'agit d'une méta-analyse qui a été présentée au dernier congrès de rhumatologie américain, et en fait qui analyse plusieurs études qui utilisaient soit un contrôle serré sans protocole prédéfini, donc on faisait très attention aux patients et à l'activité de la maladie, mais il n'y avait pas de protocole tout fait pour contrôler cette maladie. Et vous avez une autre, d'autres études, encore une fois, vous voyez vos patients souvent, mais cette fois-ci, on vous dit exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si le DAS28, si la maladie est active, vous faites ceci. Et puis si elle est encore active, vous en rajoutez un traitement. Donc on vous dit exactement ce qu'il faut faire. Il faut bien rentrer dans les clous. Et si on vous dit exactement ce qu'il faut faire, chaque fois que vous avez le DAS28, vous devez rajouter un traitement, rajouter ceci, rajouter cela. Ça vous permettra d'avoir une meilleure réponse sur votre polyarthrite rhumatoïde et un meilleur pronostic fonctionnel. Donc l'essentiel, c'est l'objectif thérapeutique et la réactivité dans l'adaptation du traitement. Débuter un traitement et aussi l'adapter pour qu'il réponde, pour que le patient puisse répondre à cette thérapeutique. Donc en conclusion, le traitement de la PR se simplifie. Un traitement précoce devant toute PR potentielle, même en l'absence de certitude. Vous aurez un certain nombre d'éléments, donc bien sûr cliniques. Les auto-anticorps dont vous a parlé Patrick Blanco qui vont vous aider au diagnostic. On pousse de temps en temps même jusqu'à l'IRM pour avoir des éléments de certitude. Tout ce qui vous permet en fait de débuter un traitement. On a le méthotrexate beaucoup plus facile qu'il y a quelques années, et donc vous allez surveiller étroitement votre patient pour contrôler sa polyarthrite rhumatoïde. En l'absence de réponse suffisante à 3 mois, il faudra évaluer le risque de progression radiologique de votre patient, encore une fois sur les nombreux facteurs pronostiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, et vous pourrez discuter une biothérapie si vous pensez en présence d'une polyarthrite rhumatoïde excessivement agressive. En cas de rémission, plusieurs attitudes pourront se discuter, soit le maintien du méthotrexate et de temps en temps, ponctuellement, des tentatives d'arrêt dans des conditions bien particulières. Je vous remercie.
Là, tous les rhumatologues sont d'accord avec ce que vient de vous dire Christophe. Hein. Il faut voir une polyarthrite dès les toutes premières semaines. Dès que l'embryon du diagnostic est supposé craque, on dégaine le méthotrexate, on réajuste les posologies méthotrexate toutes les 4 semaines. Et si à 3 mois, malgré avec du méthotrexate à bonne dose, éventuellement déjà en injectable, on n'a pas la réponse optimale, on passe à une thérapeutique plus lourde, une biothérapie.
Justement, je crois que ce qui est important, c'est d'impliquer le médecin traitant, puisque l'important c'est ce contrôle strict avec ce suivi potentiellement même mensuel des polyarthrites rhumatoïdes, qui est bien sûr compliqué pour certains rhumatologues, et c'est là que le médecin traitant intervient et permet en fait d'objectiver l'activité de la maladie et aidera donc le rhumatologue à prendre la bonne décision sur le plan thérapeutique. J'ai pas voulu dire qu'il fallait mettre tous les patients sous anti-TNF. Je crois que ce qui est très important, c'est justement de donner, et ça c'est un des messages, je crois, qui est sorti en fait de ces 10 dernières années, c'est qu'il faut donner sa pleine chance aussi au méthotrexate. Et en fait, ce que j'ai voulu faire ressortir, c'était aussi que le méthotrexate est un très 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 bon traitement de la polyarthrite rhumatoïde et qu'il faudra toujours lui donner sa chance et sa pleine chance, et que même il faudra le poursuivre souvent lorsqu'on initie une biothérapie. Après, il y a toujours bien sûr l'évaluation du bénéfice que leur apporteront cet anti-TNF-alpha avec les effets secondaires potentiels encourus sous anti-TNF-alpha. Et il faut bien sûr toujours sous-peser les options thérapeutiques. Alors pratiquement, bien sûr, là je vous ai montré principalement des études cliniques, des études de la littérature scientifique. Donc bien sûr, tout le monde utilise le DAS28 pour prouver sur le plan scientifique que la maladie est active. Sur le plan pratique, je vous rassure, on se fait rapidement une idée de l'activité de la polyarthrite rhumatoïde de nos patients. On n'a pas besoin du DAS28 pour savoir s'ils sont particulièrement actifs ou non. Alors après, de le rajouter dans le courrier, de le calculer, ça me paraît justifié pour, on va dire, objectiver l'activité de cette polyarthrite rhumatoïde. Mais le DAS28 est quand même le reflet de ce qu'on ressent et de ce qu'on voit et de ce que rapporte le patient. Donc on ne raisonne pas qu'en DAS28, on raisonne surtout sur l'interrogatoire.
Si tu me donnes un petit complément de réponse, t'as pas le choix, comme je suis le modérateur. Ah oui. On insiste quand même assez lourdement à l'utilisation, en tout cas en spécialité de cet outil. Schématiquement, on prend 28 articulations qui sont les plus fréquemment touchées dans la polyarthrite rhumatoïde. C'est essentiellement les articulations de membres supérieurs, donc toutes les métacarpophalangiennes, les interphalangiennes proximales, poignets, coudes, épaules plus les deux genoux. Donc des articulations qui sont assez faciles à examiner, et on regarde quel est le nombre d'articulations authentiquement gonflées. Voilà, nombre d'articulations gonflées, 6, 7. Le nombre d'articulations douloureuses à la pression, c'est-à-dire que vous appuyez très simplement sur l'articulation. Bon, on n'a pas, on ne s'est pas tous exercés pour appuyer exactement de la même façon. Donc après, c'est votre habitude d'exercer une pression sur une articulation. Donc là, vous ajoutez le nombre d'articulations douloureuses à la pression. Ensuite, on prend en compte un paramètre de l'inflammation biologique, le plus simplement la vitesse de sédimentation. Et puis, l'appréciation globale que calme le malade de l'activité de sa maladie, c'est-à-dire qu'on dit entre 0, pas actif du tout, 10, le plus actif que vous ayez eu. Et le malade se situe 6, 7, etc. Et puis après, vous avez un petit calcul qui est relativement compliqué, puisque c'est 0,524 fois la racine carrée du nombre d'articulations gonflées, plus 0, etc. Bon, alors, il y a 0,33 log népérien de la vitesse de cimentation. Donc actuellement, on ne valide les internes en rhumatologie que quand ils font le log népérien de tête. Ce qui vous explique qu'on forme un peu moins de rhumatologues qu'il y a quelques années. Non, après, si vous voulez, il y a des calculatrices qui nous font ça. Et très clairement, c'est un outil qui est pas commode au quotidien, en ce sens qu'il vous oblige à avoir une calculette. Alors, il y a des calculettes spécifiques, si ça vous intéresse. Si vous avez un iPhone, il y a des logiciels qui vous font de DAS28 tout seul. Si vous êtes connecté à Internet, vous tapez DAS28 sur Internet, crac, vous tombez sur un site avec une petite grille Excel qui vous permet de faire le calcul très simplement. Ce qui est certain, c'est que si vous voulez, nous, il y a 10 ans, quand on expliquait aux rhumatologues que c'était probablement très utile de faire ce calcul pour évaluer l'activité de la maladie, tout le monde nous riait au nez en disant « faut vraiment être hospitalier pour passer autant de temps à faire des conneries ». Et actuellement, si vous voulez, l'absolue certitude qu'ont tous les rhumatologues, c'est que de s'obliger à calculer le DAS28 à tous les coups veut dire qu'à toutes les fois que vous avez vu le malade, vous avez regardé le nombre d'articulations douloureuses, le nombre d'articulations gonflées, et qu'avant, finalement, si vous voulez, quand on voyait un malade, c'est beaucoup plus facile de ne pas changer de traitement que de changer. Donc quand on voit un malade, est-ce que vous allez mieux? Des fois, on tombait sur des gens qui sont plutôt gentils. Les polyarthrites, c'est plutôt des gens agréables et sympathiques. C'est-à-dire, oui, ça va, c'est peut-être un petit peu mieux. Puis alors, nous, on n'avait pas envie de changer. Vous regardez, vous êtes transformé. Et comme on ne savait plus le nombre d'articulations qui étaient gonflées avant, et voilà. Et c'était très très facile, finalement, de rester à la même thérapeutique sans se pourrir la consultation, de nouvelles explications, d'une évaluation de la possibilité de mettre tel ou tel traitement en fonction des comorbidités, des traitements associés, etc. S'imposer un calcul qui vous donne un chiffre objectif de l'évolution de l'activité de la maladie vous impose aussi des adaptations thérapeutiques, donc ça prend un petit peu plus de temps. Mais vraiment, on a parfaitement démontré, c'est les études que vous a montré Christophe, que le fait de prendre en compte ce critère d'activité, bien qu'il soit imparfait, a vraiment complètement changé le pronostic pour nos malades et la façon dont on gère les traitements. C'est depuis qu'on utilise ces outils au quotidien qu'en fait on s'est rendu compte que les ajustements devaient intervenir beaucoup plus rapidement que ce qu'on faisait auparavant et que l'intervention rapide est parfaitement corrélée à une bien meilleure réponse au traitement.
Donc on va commencer par un cas clinique, comme ça on va se mettre en jambe avec le cas clinique. Une dame de 70 ans est hospitalisée aux urgences. En fait, à la suite d'une chute de sa hauteur, elle n'a pas pu se relever. Vous l'examinez, elle a un membre inférieur raccourci en rotation externe. Vous faites faire la radiographie de hanche, et là vous constatez effectivement une fracture du col du fémur. Alors Madame V, elle vous dit, alors là je ne comprends pas, je suis suivie par un rhumatologue, et je prends justement un traitement pour l'ostéoporose depuis 3 ans afin de ne pas avoir de fracture. Que se passe-t-il? Mon rhumatologue m'a prescrit vraiment n'importe quoi. Mon pharmacien m'a vendu du placebo, ou alors mon mari qui me prépare le petit déjeuner et mes médicaments tous les matins a tenté de m'empoisonner. Qu'est-ce qu'il faut penser? Aucun traitement, en fait, n'a démontré qu'il éradiquait complètement les fractures. Dans les différents essais cliniques, l'incidence des fractures vertébrales et non vertébrales diminue de 30 à 65% suivant les essais cliniques et jamais de 100%. D'ailleurs, l'étude ICARO, qui est une étude italienne, qui est une étude prospective et purement observationnelle, a regroupé 880 patientes traitées soit par raloxifène, c'est-à-dire Otruma ou Evista, ranelate de strontium, le Protelos, ou l'alendronate, donc le Fosamax. Et en fait, dans cette étude, ils ont constaté que l'incidence annuelle de fracture était quand même de 8,9% chez ces patientes traitées. Et cette incidence de fracture annuelle est supérieure à l'incidence de fracture observée dans les différents essais cliniques. Alors pourquoi? Quelles ont été les hypothèses? Probablement un manque d'observance, probablement aussi un manque de supplémentation vitamino-calcique et des patientes qui n'étaient pas sélectionnées puisque là c'était une étude de la vraie vie. Donc quelles questions faut-il se poser? Je vous ai listé ici toutes les questions mais je vais les reprendre au fur et à mesure. Donc les questions que l'on se pose, c'est est-ce qu'il faut arrêter le traitement par bisphosphonate le temps que la fracture consolide? Il faut écarter un traumatisme conséquent, éliminer une affection intercurrente, corriger une carence vitamino-calcique, prendre en compte la localisation de la fracture, évaluer également le délai de survenue de la fracture par rapport au début du traitement, vérifier l'observance thérapeutique, et là, on se posera enfin la question si on doit changer le traitement ou pas. Donc, je vais développer ces différentes questions. Alors, pourquoi se pose-t-on la question d'arrêter le traitement par bisphosphonate le temps de consolidation d'une fracture? Bien, tout simplement parce que les bisphosphonates freinent la résorption osseuse et donc la formation. Or, on sait que sur une scintigraphie, on sait que le pyrophosphate marqué a tendance à se fixer électivement sur la localisation de la fracture. Or, le pyrophosphate est, on va dire, un ancêtre des bisphosphonates. Donc, on se dit, mais si les bisphosphonates vont se fixer électivement sur la fracture, est-ce qu'on risque de freiner la consolidation? Eh bien, en pratique clinique, on constate que probablement qu'il n'y a pas d'augmentation du délai de consolidation, puisqu'en fait, à l'heure actuelle, on administre des bisphosphonates à visée antalgique dans les fractures vertébrales. Il existe également dans l'étude Horizon, qui est l'étude pivot pour l'Aclasta, il y a un bras où on a étudié, on a fait des perfusions d'Aclasta chez des patients qui avaient présenté des fractures du col du fémur. Et en fait, deux semaines après la fracture du fémur, on leur administrait une perfusion d'Aclasta. Donc il y avait deux bras, la perfusion d'Aclasta ou le placebo. Et en fait, on remarquait qu'il n'y avait pas de retard de consolidation de la fracture du col du fémur. Et la surprise en plus, c'est qu'il y avait également une diminution de la mortalité chez les patients qui avaient été traités. Et de plus, il semble inutile de stopper les bisphosphonates s'il y a une fracture, puisque ce sont des traitements qui ont un effet rémanent. Ensuite, il y a également plusieurs cas rapportés dans la littérature de fractures atypiques chez des patients traités par bisphosphonate. Quelles sont ces fractures atypiques? Ah là, je suis contente, on voit les radios. Donc, les fractures atypiques, vous voyez, ce sont les fractures de la diaphyse fémorale ici. Donc ça, c'est des patientes qui étaient traitées par bisphosphonate. Là, c'est le cas d'une patiente qui se plaint d'une douleur au niveau du fémur, une douleur de caractère mécanique. Donc son médecin lui a prescrit une scintigraphie et comme vous voyez ici, il y avait un renforcement de fixation. Sur la radiographie, un épaississement de la corticale. Et justement, en sortant du cabinet de radiologie pour aller à son domicile, elle a fracturé. Donc, en moyenne, les différents cas rapportés dans la littérature, ce sont des patientes qui étaient traitées, on va dire, en moyenne, depuis 6 à 8 ans par bisphosphonate. Alors, les hypothèses, est-ce qu'il existe une suppression trop excessive du remodelage osseux chez ces patientes? Une diminution des capacités à réparer les microfissures, tout simplement, quand vous administrez des bisphosphonates, vous inhibez les ostéoclastes, donc en contrepartie, vous freinez un peu la formation osseuse. Et donc, la recommandation de ces différents auteurs, alors d'abord, il faut vous dire qu'il n'y a pas de vraie relation de cause à effet dans ces fractures. Ce sont quelques cas rapportés dans la littérature. On ne sait pas ce qu'on a remarqué, que ce sont des dames qui étaient traitées par bisphosphonate. En tout cas, la recommandation, c'est que si vous constatez ce type de fracture atypique sous bisphosphonate, là, il recommande de changer de famille de traitement à visée anti-ostéoporotique. Ensuite, la deuxième question, est-ce réellement une fracture d'origine ostéoporotique? Est-ce que c'est une fracture de fragilité? Parce que si le patient est tombé du premier étage, effectivement, s'il a une fracture, c'est probablement pas un échec au traitement. Donc, il faut s'assurer que la fracture est bien survenue pour un traumatisme de faible énergie. Et il y a des fractures qu'il ne faut jamais considérer comme étant des fractures ostéoporotiques, qui sont les fractures du rachis cervical, des doigts, des orteils et du crâne. La troisième question, c'est il faut aussi éliminer une affection intercurrente, parce qu'il n'y a pas qu'un os porotique qui peut casser, il peut y avoir une métastase sous-jacente, et il ne faut pas hésiter à refaire un bilan biologique afin d'éliminer une ostéomalacie, un myélome, une hyperparathyroïdie, voire une hyperthyroïdie. Se poser également la question si on a bien corrigé une carence vitaminique ou calcique, ne pas hésiter à avoir à peu près le rapport en produits laitiers quotidiens. Et ne pas hésiter également à doser la 25-hydroxyvitamine D, puisqu'à l'heure actuelle, le seuil recommandé est un seuil supérieur à 30 nanogrammes par millilitre. En pratique clinique, j'aurais tendance à ne plus proposer de comprimés de calcium, parce que et plutôt d'inciter une consommation de produits laitiers parce que les dames, même si elles n'osent pas vous le dire, ne tolèrent pas toujours très très bien les comprimés de calcium. Et elles ont tendance à tout arrêter, c'est-à-dire elles arrêtent les comprimés de calcium, elles arrêtent le traitement visé anti-ostéoporotique parce qu'elles en déduisent que ça procure des troubles digestifs, donc elles arrêtent tout. Ensuite, évaluer également quelle est la localisation de la fracture, puisque quelques traitements, tels que le raloxifène, donc je vous rappelle, le raloxifène c'est l'Evista ou l'Octruma, et l'ibandronate c'est le Bonviva, n'ont pas fait la preuve de la prévention dans les fractures du col fémoral ou des fractures périphériques. Donc si la dame est traitée par ce type de traitement et qu'elle présente une fracture périphérique, là vous pouvez envisager de changer de famille de traitement. Et vous voyez, comme je vous l'ai marqué, le bisphosphonate ne diminue pas de 100% donc les fractures périphériques. Il diminue en moyenne de 20 à 30% le risque de fractures périphériques. Et le ranelate de strontium en moyenne de 15%. Alors ça ne veut pas dire que le ranelate de strontium est moins efficace que les bisphosphonates. Je vous donne simplement les chiffres des études et les patientes qui étaient incluses dans ces études n'étaient pas le même profil. Il faut également évaluer le délai entre l'initiation du traitement à visée anti-ostéoporotique et l'apparition de la fracture. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les traitements ne sont efficaces qu'à partir d'un certain délai. Et ce délai d'efficacité est variable pour chaque traitement. Il faut savoir par exemple que le risédronate est le seul à avoir démontré qu'il avait une action significative à partir du 6e mois, comme je vous le montre sur cette courbe. Donc le groupe risédronate versus le groupe placebo, alors là c'est pour les fractures vertébrales, on voit qu'il existe une diminution significative du risque de fracture à partir du 6e mois. Donc par exemple, si la fracture survient au bout de 3 mois après l'initiation de votre traitement, il ne faut pas penser que le traitement est inefficace. Là, le teriparatide, qui est le forstéo, là je vous parle des fractures extravertébrales. Vous pouvez le constater ici, le groupe teriparatide et ici le groupe placebo. On voit bien qu'à partir du 10e mois, on voit un écart entre les deux courbes. Or, la diminution significative par rapport au groupe placebo apparaît à partir du 18e mois, pour les fractures extravertébrales. Je n'ai pas parlé des fractures vertébrales. Donc là, je vous montre que quelques exemples. Ensuite, il faut également vérifier l'observance du traitement. Puisque l'on sait à l'heure actuelle que si on ne motive pas les patientes pour prendre leur traitement à visée anti-ostéoporotique, une patiente sur deux stoppe le bisphosphonate au bout d'un an. En fait, l'ostéoporose est une maladie silencieuse, ça ne fait pas mal. Si vous ne la motivez pas et que vous ne leur montrez pas l'intérêt de prendre un traitement qui est contraignant à prendre, pour une maladie qui ne fait absolument pas mal, une patiente sur deux l'arrête au bout d'un an. Un peu moins pour le teriparatide, puisque celui-ci se fait sous forme d'injection. Or, si l'observance est inférieure à 80%, ceci réduit de 25% l'efficacité du traitement. Et si l'observance est inférieure à 50%, le traitement, on peut considérer qu'il n'est plus efficace. Alors, vous dites, je vais changer de traitement. Qu'est-ce qu'on doit considérer ? Alors, il y a des traitements qui sont non rémanents, tels que le traitement hormonal substitutif, le raloxifène ou le teriparatide, c'est-à-dire qu'à l'arrêt de ce traitement, vous perdez le bénéfice au bout de quelques mois d'arrêt. Et il existe des traitements rémanents, tels que la famille des bisphosphonates et le ranelate de strontium. Alors, que sait-on des switches thérapeutiques pour ces différentes molécules ? Alors, toutes les études que je vais vous montrer ne sont pas parfaites. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces études se sont appliquées à démontrer l'efficacité du traitement sur des critères biologiques et densitométriques, mais il n'y a aucun résultat sur l'incidence fracturaire. Tout simplement, parce que ces études, il aurait fallu les conduire sur une dizaine d'années pour démontrer effectivement une diminution de l'incidence fracturaire. Et ça revient très cher pour le laboratoire. Alors, est-ce qu'il existe une stratégie optimale ? Donc, je vais vous présenter quelques études cliniques concernant la minéralisation osseuse. Donc, est-ce qu'on peut switcher un bisphosphonate par un autre bisphosphonate ? Donc là, c'est une première étude qui a inclus 225 femmes, traitées depuis au moins un an par un landronate, en moyenne 4 ans. Une étude en double aveugle. Donc, soit elles poursuivaient la landronate, soit elles étaient switchées pour avoir une perfusion de zolédronate. Et là, qu'est-ce qu'on a constaté ? Que le gain de minéralisation au niveau du rachis, que ce soit par acide zolédronique, donc Aclasta, ou à landronate, c'est-à-dire Fosamax, n'induisait pas de gain ostéodensitométrique. Donc ça, au bout d'un an. Pour les bisphosphonates, après le ranelate de strontium, est-ce que là, il n'y a absolument pas d'études ? Alors, tout simplement, pourquoi ? Parce que le ranelate de strontium, c'est une molécule qui, on va dire, augmente artificiellement la minéralisation osseuse sur l'ostéodensitométrie. Et donc, vous vous doutez bien que le laboratoire ne va pas s'amuser à faire ce type d'étude, parce que si vous switchez par du bisphosphonate, automatiquement, vous allez voir qu'il y a une perte de la minéralisation osseuse, tout simplement parce que vous relarguez le strontium, qui déjà en lui-même, dans l'os, augmente artificiellement la minéralisation osseuse. Qu'en est-il dans ce cas-là du ranellate de strontium après le bisphosphonate ? Donc là, c'est une étude qui a concerné 120 femmes ménopausées. 60 avaient pris auparavant des bisphosphonates, 60 étaient naïves de tout traitement. Et nous remarquons qu'il y a effectivement une minéralisation osseuse qui prédomine chez les femmes qui étaient naïves de traitement, comme si les bisphosphonates pouvaient émousser l'efficacité du ranellate de strontium. Le teriparatide après les bisphosphonates. Donc là, c'est un petit groupe de patientes, 59 femmes, qui étaient traitées antérieurement, donc avant d'être incluses dans l'étude, soit par du raloxifène, soit par de la landronate. Et ces femmes, on a arrêté leur traitement, elles ont eu un switch par teriparatide. Et qu'est-ce que nous avons constaté à 6 mois et à 18 mois ? Que les femmes qui étaient antérieurement traitées par raloxifène avaient un gain densitométrique plus important que les femmes qui étaient traitées antérieurement par landronate. Là aussi, comme si la landronate pouvait émousser l'efficacité du teriparatide. L'inverse, bisphosphonate après teriparatide, là on constate effectivement un important gain de minéralisation. En fait, les femmes étaient traitées pendant 18 mois par du teriparatide, puis elles ont été switchées pour être sous alendronate, et là, l'ostéodensitométrie à 2 ans a montré la persistance, surtout, et le maintien de la gain de la minéralisation osseuse chez ces patientes. Donc là, c'est la dernière étude qui a été présentée au congrès aux États-Unis, en novembre 2009. Ils ont réalisé chez un groupe de patientes la séquence suivante. Elles étaient d'abord traitées par teriparatide pendant 18 mois à 24 mois. Donc pour rappel, c'est le Forsteo, c'est l'injection sous-cutanée tous les jours. Et comme on sait que c'est un traitement qui n'a pas de rémanence, ils ont fait une perfusion à l'arrêt du teriparatide, une perfusion d'Aclasta. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté en fait ? Qu'il existait effectivement la persistance d'un important gain de minéralisation osseuse, que ce soit au niveau du rachis ou au niveau du col fémoral. Ils ont constaté très rapidement, dès le 10e jour, une diminution des marqueurs de l'ostéorésorption osseuse, que sont les CTX sériques. À partir du deuxième mois, une diminution des marqueurs de l'ostéoformation osseuse. Et donc, cette séquence thérapeutique paraissait également très séduisante. Donc, au total, si une fracture survient sous traitement, il ne faut pas considérer que c'est un échec thérapeutique. Mais souvent, malheureusement, on est un petit peu obligé de changer de traitement parce que, ne serait-ce que sur le plan psychologique, la patiente, elle, vous risquez d'avoir une patiente qui ne sera plus observante vis-à-vis de ce traitement. Donc on a tendance à changer de traitement. Si la malade a maintenant 2 fractures vertébrales, vous pouvez lui proposer le teriparatide puisqu'il a l'AMM dans ce cadre-là. Le Forsteo est donc le traitement qui est le plus ostéoformateur. Si jamais c'est un traitement qui n'avait pas d'action sur le plan périphérique, pour prévenir les fractures périphériques, là aussi il faudra changer de traitement. Voir dans ce cas-là, si jamais c'est un problème d'observance, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer l'observance thérapeutique ? Et enfin, nous pouvons décider de changer de traitement. Alors là, je vous donne une proposition également. Si le patient répond à la définition de non-répondeur clinique, c'est-à-dire un traitement à visée anti-ostéoporotique pris au moins depuis 1 an, et si vous pensez qu'il y a vraiment eu une observance correcte. Je vous remercie.
Je me permettrai juste, avant d'ouvrir les questions, d'insister sur un point, c'est le savoir revoir le diagnostic. C'est extrêmement facile d'aller trop vite sur le diagnostic d'une ostéoporose, et on voit maintes fois des patients qui en fait ont une évaluation de l'ostéodensitométrie. L'ostéodensitométrie répond T-score à moins de 5, moins de 7, moins de 8. Et le radiologue qui vous fait l'ostéodensitométrie dit le T-score est à moins de 7, donc c'est une ostéoporose. Et c'est la définition OMS de l'ostéoporose. Oui, mais si on n'a pas éliminé les diagnostics différentiels, rappelons que l'ostéodensitométrie vous dit simplement la masse osseuse est basse. Il n'y a rien qui fait plus baisser la masse osseuse qu'un cancer du sein avec une diffusion métastatique, qu'un myélome, qu'une hyperparathyroïdie. Et malheureusement, quand il y a donc sur la simple ostéodensitométrie, la lecture un peu rapide d'une ostéodensitométrie, un traitement qui est ostéoprotique qui est donné, bien sûr, on va continuer à avoir l'évolution de l'ostéopathie fragilisante, des fractures. Et donc, quand survient une fracture sous un traitement ostéoprotique, je crois vraiment qu'il faut d'abord se reposer la question du diagnostic. On ne se la pose jamais assez.
Je les motive à manger des produits laitiers. Parce que globalement, alors j'ai peut-être pas eu de chance aussi, mais il m'est arrivé deux cas où il y a une première dame qui est revenue, que j'ai revue un an après avoir instauré le traitement par calcium, vitamine D et bisphosphonate. Et en fait, je l'avais pas revue à la consultation à 6 mois. Et elle est revenue un an après en me disant qu'elle avait fait une poussée de sigmoïdie diverticulaire. Elle avait eu sa coloscopie et on lui avait dit qu'il y avait plein de dépôts calciques dans ses diverticules. Donc elle a cru que j'avais voulu l'empoisonner. Or, il est vrai que les comprimés de calcium, en tout cas, majorent la constipation apparemment. Elles se disent plus souvent constipées et avec un météorisme abdominal. Donc, et j'ai une autre dame qui m'a fait la même chose, j'ai vraiment pas eu de chance. Donc depuis, je ne prescris plus de comprimés de calcium et je les incite à manger des produits laitiers. C'est l'ère du bio, donc je reste au bio. Oui, ah, par contre, la vitamine D, si, oui, je continue. Alors, sous forme de cholécalciférol, donc soit les ampoules du V-dose ou de Zimad. Systématiquement. Parce qu'en fait, quand vous faites les dosages dans la population, ils sont systématiquement en insuffisance, voire carencés.
Alors, tu peux donner le schéma?
Alors, le schéma, je me suis inspirée de l'étude de Olic, où quand le taux de 25-hydroxyvitamine D est inférieur à 10 nanogrammes par millilitre, je donne une ampoule tous les 15 jours pendant 2 mois, c'est-à-dire 4 ampoules. Si le taux est compris de 10 à 20, je donne une ampoule tous les 15 jours pendant un mois et demi, c'est-à-dire 3 ampoules. De 20 à 30, une ampoule tous les 15 jours pendant un mois, c'est-à-dire 2 ampoules. Autrement, en systématique, je fais des ampoules du V-dose tous les 4 mois chez les dames de plus de 60 ans. Et avant, alors là, je vous parle de la population la plus fréquente qui a un problème d'ostéoporose. Avant, si nous les voyons pour une ostéoporose, je contrôle le taux de vitamine D. Et oui, je pense qu'une ampoule tous les 6 mois doit suffire, mais là, il n'y a rien de...
Là, on va dire qu'il n'y a pas de démonstration. Je crois, ce qu'on peut quand même ajouter, c'est que les risques de surdosage sont tout à fait minimes. Et c'est vraiment les seules intoxications à la vitamine D qu'on voit, c'est dans des consommations ahurissantes, dans le cadre de cocktails sportifs. Et qui échappe à tout contrôle médical. Mais si vous respectez ce type de schéma, donc grossièrement une fois restauré les taux sériques de vitamine D normaux, 3 à 4 ampoules d'équivalent du V-dose par an, vous ne risquez absolument rien. Et je vous rappelle que l'UV-dose n'a pas qu'un intérêt pour l'os. On a montré, il y a de très grosses études de cohorte qui ont montré que le fait d'avoir des taux relativement élevés de vitamine D, en tout cas au-dessus des 30 nanogrammes par millilitre, permettait de réduire l'incidence de cancer du côlon de 60%, de cancer du sein, de cancer de la prostate, réduisait les risques de différentes maladies inflammatoires, dont la polyarthrite rhumatoïde. Et il y a un effet de la vitamine D qui va mais très au-delà de ce qu'on imaginait il y a quelques années, et en tout cas très au-delà du métabolisme osseux. Ça ne sert à rien de faire un dosage, et forcément, c'est complètement... Si le dosage est toujours bas, ça veut dire qu'il ne faut pas faire le dosage et qu'il faut d'emblée donner une supplémentation, et que peut-être si on donne 3 ou 4 ampoules du V-dose, de toute façon, on corrigera un petit peu plus tard des gens qui sont vraiment en déficit profond, mais de toute façon, on finira bien par les corriger, et à ce moment-là, ça suffit, et vous faites l'économie du dosage. Voilà. Mais simplement, vous ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Là, on va aborder les corticoïdes maintenant. J'aborde peu le problème osseux, donc c'est bien que vous posiez la question. Ça, de toute façon, ce qui est une certitude absolue, c'est une corticothérapie au long cours doit systématiquement être associée à une prise de vitamine D. Et les 4 ampoules du V-dose correspondent au schéma tout à fait classique.
À l'heure actuelle, si vous souhaitez que l'ostéodensitométrie soit remboursée chez le patient, c'est à la fin de la cure du traitement que vous pouvez réaliser une ostéodensitométrie de contrôle. Donc sous bisphosphonate en moyenne c'est 4 à 5 ans, sous raloxifène c'est 4 à 5 ans également. Donc c'est à la fin de la cure que vous pouvez faire un contrôle de l'ostéodensitométrie. Et si vous souhaitez vous rassurer et faire une ostéodensitométrie à 2 ans pour être sûr, pour vous dire, bon, mais avec mon traitement, il y a un gain de minéralisation osseuse, là, la stéodensitométrie ne sera pas remboursée. Et c'est 40 euros.
L'idée, si vous voulez, c'est qu'en ralentissant le métabolisme de l'os, notamment donc avec un bisphosphonate, en fait, comme l'os travaille beaucoup moins vite, vous résorbez beaucoup moins d'os ancien, et l'os se minéralise très vite quand il vient d'être construit, et puis ensuite continue à se minéraliser, certes moins vite, mais continue quand même à gagner du calcium, des phosphates, et donc un phosphate tricalcique. Et plus la trame osseuse est enrichie en minéral osseux, plus elle est solide dans un premier temps, mais plus elle devient rigide également. Et au bout d'un moment, quand on arrive à des seuils de rigidité trop importants, ben finalement, c'est exactement comme un alliage métallique qui est trop rigide. S'il tombe, il casse. Et c'est la corticale qui casse parce qu'elle encaisse absolument plus la moindre flexion ou la moindre torsion. Et c'est très souvent, c'est exactement c'est ce que rappelait Bernard à l'instant, vous prenez une craie, vous la tordez, et vous avez une magnifique fracture spiroïde. Vous reproduisez le schéma de la fracture spiroïde en milieu d'un fémur ou d'un tibia. Et c'est ça qu'on craint énormément avec des traitements trop longs. Et c'est pour ça qu'on, Nadia vous dit, 3, 4, éventuellement 5 ans, et ensuite on fait une pause thérapeutique. Et c'est au moment où vous allez finir votre traitement et que vous allez débuter une pause thérapeutique, qu'en fait vous faites éventuellement une ostéodensitométrie de contrôle, puis vous allez laisser passer 1 ou 2 ans, vous refaites une ostéodensitométrie, puis là si vous voyez que de nouveau la masse osseuse baisse, à ce moment-là il faut réintroduire quelque chose. Soit le même traitement si finalement il donnait cette satisfaction, soit on évolue vers une séquence thérapeutique différente.
Non, c'est le strontium, c'est une molécule qui est lourde et qui est plus lourde que le calcium. Donc quand vous faites les mesures avec l'ostéodensitométrie, ça augmente très nettement.
C'est-à-dire que vous avez une partie du cristal qui est du cristal de strontium. Et comme le strontium a un poids moléculaire, un poids atomique plutôt plus élevé que le calcium, c'est exactement la même chose que quand on donnait les sels de fluor il y a quelques années. Hein, les sels de fluor, ils ont été arrêtés pour d'autres raisons, parce qu'ils provoquaient aussi des fractures en os cortical. On va laisser de côté, mais on savait très bien que le fluor faisait monter la masse osseuse de façon vertigineuse. Alors en partie parce qu'il avait une véritable action sur le métabolisme de l'os, certes, mais en partie aussi de façon artificielle, parce que le fluor incorporé était pris en compte par l'évaluation par la masse osseuse mesurée, quantifiée par l'ostéodensitomètre.
C'est remboursé chez les messieurs s'ils ont un analogue de la LHRH, s'ils ont une corticothérapie au long cours.
Et s'ils
j'ai
ont dû VIH.
Oublier. Et s'ils ont fracturé.
Et s'ils sont infectés par le VIH.
C'est pas remboursé.
En fait, c'est grâce aux interventions des malades atteints du sida qu'on a remis en selle l'idée de rembourser l'ostéodensitomètre et que le remboursement a été de nouveau discuté au Parlement. C'est sous la pression des associations de patients VIH. Je vais essayer de vous traiter ce sujet. Donc là aussi, on a essayé de partir sur un sujet extrêmement pratique, c'est l'utilisation des corticoïdes. Et alors, une fois que j'ai rédigé ce libellé, ben, j'ai regretté 1000 fois, parce que quand j'ai vu qu'il y avait 20 minutes pour traiter le sujet, vous me pardonnerez. En fait, je vais remplacer rhumatisme inflammatoire par polyarthrite rhumatoïde, parce que ça sera infiniment plus simple. Éventuellement, dans les questions, on pourra aborder les quelques sujets complémentaires, mais vraiment, fondamentalement, l'idée est la même que ce qu'on va aborder pour la polyarthrite. Alors d'emblée dire que ben, les corticoïdes, ça a vraiment été fait pour nos maladies, ça n'a jamais été fait pour les internistes au départ, hein. C'est dans un service de rhumatologie qu'on a inventé les corticoïdes avec un laboratoire de biologie, et donc dans les années 50, la première molécule de synthèse, donc la copie quasi conforme du cortisol plasmatique, a été faite dans un laboratoire dépendant de la Mayo Clinic et a été essayée à des posologies absolument ahurissantes, hein, qui reviennent à plus de 100 mg d'équivalent prednisone par jour. Et Hensch, qui est donc le rhumatologue de l'époque à la Mayo Clinic, dès le début des années 50, a traité un certain nombre de polyarthrites rhumatoïdes sévères, pour lesquelles à l'époque, je vous rappelle, on n'avait que de l'aspirine, hein, à leur donner, ce qui était notre insuffisant, éventuellement un peu de salazopyrine qui commençait à émerger, proposé par des Norvégiens. Et donc Hensch a montré que des polyarthrites qui étaient cloués au lit par un tableau inflammatoire majeur, ben quand on leur donnait cette copie du cortisol plasmatique, eh bien, on les mettait en rémission. Et cette rémission, bien sûr, a fait l'objet de publications dans la presse médicale à l'époque, et c'était tellement spectaculaire qu'il y a tout un tas d'articles dans la presse médicale qui montrent que, ça y est, Hensch avait réussi à guérir la polyarthrite rhumatoïde, ce qui lui a valu, avec ses collègues biologistes, d'avoir le prix Nobel 2 ans après. 2 ans, ce qui est un petit peu juste pour qu'on commence à publier les effets secondaires, mais dans les années qui ont suivi, on s'est rendu compte qu'aux posologies, bien sûr, où les corticoïdes étaient employés par Hensch et consorts, le traitement était totalement impossible à suivre au long cours, que quand on essayait d'arrêter, il y avait un rebond thérapeutique, et quand on maintenait le traitement, les gens multipliaient les fractures, voyaient des diabètes émerger, on a décrit la litanie, les ostéonécroses, la cataracte, et on a décrit ainsi la litanie des effets secondaires que vous connaissez parfaitement à l'usage d'une corticothérapie à forte dose. Tant et si bien qu'il y a véritablement eu, et ceux d'entre vous qui se rappellent, nos anciens patrons, notamment par exemple M. David Chausset, les gens de cette génération, ont vécu ça comme un drame personnel parce qu'ils ont utilisé très souvent la corticothérapie à de très fortes doses à cette époque, à l'instar de ce que montrait Hensch, et ça a été un tel drame pour les patients qu'ils avaient soumis à ce type de traitement qu'ensuite il y a eu un véritable anathème de jeter sur la corticothérapie, et les rhumatologues de cette génération ont essayé de se passer complètement des corticoïdes, et vous savez, pour les Bordelais qui se rappellent de l'époque de M. David Chausset, que même pour traiter un Horton, on n'utilisait pas de corticoïdes, et qu'un interne qui aurait mis des corticoïdes à un malade dans le service de rhumatologie à Bordeaux finissait rééducateur fonctionnel à Tamanrasset, et donc j'ai échappé à ce sort grâce à un respect pieux, initialement, de la non-prescription de corticoïdes en rhumatologie. Donc j'ai eu une véritable expérience de la non-utilisation des corticoïdes. Alors, bien sûr, les choses ont évolué, et beaucoup de rhumatologues, surtout beaucoup d'internistes, bien entendu, ont utilisé très largement les corticoïdes dans les années qui ont suivi, avec une posologie peut-être un petit peu plus raisonnée, peut-être pas toujours aussi parfaitement raisonnée que cela, surtout en médecine interne, je tiens à le souligner. Tu me pardonneras. Mais de nouveau, ces dernières années, en fait, on se repose la question de la justification de l'utilisation des anti-TNF, des corticoïdes, pardon. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a éventuellement des alternatives avec un certain nombre de biothérapies. Alors, on a déjà parlé des anti-TNF, mais il y en a d'autres qui émergent, comme les antirécepteurs du IL-6, qui ont des effets anti-inflammatoires extraordinairement puissants, et dont on vient à se poser la question de savoir si finalement la iatrogénicité, quand on met en parallèle la iatrogénicité des corticoïdes au long cours et de certaines biothérapies, qui est-ce qui gagne, en tout cas pas l'assurance maladie, mais ça c'est un autre débat. Alors, la question actuelle, c'est finalement, est-ce qu'il faut encore utiliser les corticoïdes ? Et si oui, je vous rassure, parce que ça va être oui, je vais déflorer la conclusion d'emblée, comment et à quelle posologie ? Et là, c'est véritablement l'enjeu de cette présentation. Alors, les avantages des corticoïdes, je vous assure qu'il y a des preuves, mais vous n'en avez pas besoin, il y a des preuves dans la littérature de l'intérêt des corticoïdes dans les rhumatismes inflammatoires, et indiscutablement, il y a des essais cliniques qui montrent que ça fait mieux que le placebo, ça vous rassure, vous l'aviez déjà observé, vous n'aviez pas besoin d'essais cliniques, ça fait mieux bien sûr que les anti-inflammatoires, et ça fait mieux à tous les plans, c'est-à-dire que c'est actif plus vite, ça permet beaucoup plus souvent d'obtenir d'authentiques rémissions articulaires, et l'effet est plus stable dans le temps que celui des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Plus surprenant, et peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas tous, c'est l'impact des corticoïdes sur la progression radiologique. Vous avez vu avec l'exposé de Christophe que une des grandes victoires des nouveaux traitements et des biothérapies, c'est l'attitude qu'ont ces traitements à bloquer la progression des destructions radiologiques. Ça a été véritablement une révolution. Eh bien, sans la bloquer, les corticoïdes, néanmoins, ont apporté la preuve, et vous voyez ici les résultats d'une méta-analyse, que quand on prend les essais cliniques où on compare un bras où il y a des corticoïdes à un bras où il n'y a pas de corticoïdes. On utilise simplement des anti-inflammatoires anti-inflammatoires non stéroïdiens en tant que traitement anti-inflammatoire. Eh bien, indiscutablement, les corticoïdes ralentissent la progression radiologique et donc participent authentiquement à la prévention des destructions articulaires, même si c'est simplement un ralentissement, hein, c'est pas un arrêt parfois définitif comme on l'observe avec les biothérapies. Alors, est-ce qu'il n'y a que des bénéfices aux corticoïdes? Ben non, on a évoqué d'emblée la litanie, la longue liste des événements iatrogènes qui peuvent survenir à l'utilisation de corticoïdes au long cours. Et c'est vraiment, encore une fois, l'importance et la fréquence de cette iatrogénicité qui limite l'usage de ces traitements. Alors ici, c'est une méta-analyse des essais cliniques où on utilise des corticoïdes versus un placebo. Vous voyez que ça comprend un nombre d'études tout à fait important, 18 études ici, et pour lesquelles on va analyser les événements indésirables. Et ça, c'est un travail qui n'est pas du tout fait exclusivement dans la polyarthrite rhumatoïde. Hein, vous voyez, RA pour rheumatoïde arthritis, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Polymyalgia rheumatica ou giant cell arthritis, ça c'est PPR et Horton, et donc c'est un travail en fait qui a été conduit par des internistes, hein, notamment l'œil Guillevin à Paris, puis là vous voyez une combinaison de différentes maladies de système dont le lupus et le Sjögren ou la dermatopolymyosite, et bah, vous voyez ressortir ici la liste des événements indésirables les plus fréquents, et vous voyez qu'au premier rang de ces événements indésirables surviennent deux choses tout à fait majeures, deux complications majeures, qui sont les complications cardiovasculaires, qui sont au premier plan indiscutablement, et les complications infectieuses qui viennent juste derrière, vous voyez, avec des chiffres qui sont finalement extrêmement voisins. Ensuite, bah, une liste assez longue, effets gastro-intestinaux, psychiatriques, endocriniens, dermatologiques, etc. On va y revenir un petit peu plus loin. Alors, ici, c'est un registre tout à fait important, un registre de polyarthrite rhumatoïde du Royaume-Uni, où en fait on va essayer en analysant donc le suivi de malades atteints de polyarthrite rhumatoïde sur une période extrêmement longue, vous voyez, en moyenne c'est pratiquement 8 ans, une population importante, hein, plus de 2000 malades, on va essayer de voir quel est le risque infectieux au cours de la polyarthrite et qu'est-ce qui s'associe, quels sont les éléments prédictif du risque infectieux. Alors, j'insiste sur le fait que cette étude porte sur la décennie 1990 à 1999, et donc c'est avant l'ère des biothérapies, puisque je vous rappelle que les anti-TNF sont apparus grossièrement fin 99 et ont commencé véritablement à être utilisés largement dans les années 2000. Donc on est avant l'ère des biothérapies, mais là très clairement vous voyez que c'est des infections respiratoires qui arrivent au premier rang des infections qui compliquent nos polyarthrites rhumatoïdes, suivies des infections urinaires et des infections cutanées, des septicémies qui sont relativement fréquentes, certaines septiques également, et que les facteurs qui sont associés le plus, qui sont le plus prédictifs du risque d'événements infectieux, eh bien c'est en numéro 1 la corticothérapie, puis le tabagisme et la présence de marqueurs de sévérité de la polyarthrite comme le facteur rhumatoïde, et que si vous associez ces facteurs, eh bien vous voyez que ça multiplie de façon tout à fait considérable le risque. Mais la corticothérapie apparaissait déjà dans ce travail comme l'élément le plus associé au risque infectieux dans la polyarthrite. Alors ça, c'est avant l'ère des biothérapies. Qu'en est-il depuis qu'on utilise les anti-TNF? Vous savez que, grossièrement, quand on a un nouvel interne qui arrive dans le service de rhumatologie, on lui dit, ben voilà, le week-end, attention, hein, le week-end, tu n'embêtes pas le vieux, hein, tu n'embêtes pas le patron, tu te débrouilles avec nos malades, mais quand même, tu fais attention à nos malades. Alors si tu reçois un malade qui ne va pas bien sous anti-TNF, tu te poses trois questions. La première, est-ce que c'est une infection? La deuxième, est-ce que c'est une infection? La troisième, est-ce que c'est une infection? Quand tu as balayé ces trois hypothèses, après ça peut attendre lundi. Alors, donc on vit tous avec la conviction que les anti-TNF, les biothérapies, le premier risque, c'est les infections. Eh bien, regardez ici un registre ici nord-américain. C'est le registre d'une grosse compagnie d'assurance en Amérique du Nord, et on a essayé d'évaluer le risque infectieux dans la PR, vous voyez, alors un nombre tout à fait conséquent, hein, pratiquement 17 000 polyarthrites rhumatoïdes, et de voir quelle est la part de sur-risque ou la part de risque relatif imputable à tel ou tel traitement. Eh bien, vous voyez que dans ce suivi, le risque inhérent à l'utilisation d'un anti-TNF ne ressort pas de façon significative. Pour autant, ces accidents existent, on en a tous constaté. Regardez par contre pour la prednisone, non seulement donc le fait d'avoir pris de la prednisone par rapport à ne pas en prendre, vous multipliez par 1,7, donc vous augmentez de 70% le risque d'infection, mais c'est stratifiable en fonction de la posologie des corticoïdes, et vous voyez qu'il y a très clairement un effet dose. Le surrisque existe, y compris pour des posologies inférieures à 5 mg de prednisone par jour, donc ce que les internes qualifient de posologie homéopathique, n'est-ce pas Patrick? Voilà. Entre 5 et 10, vous multipliez par 2, au-dessus de 10, vous êtes très nettement au-delà de 2. Alors je vous montre que ce tableau, hein, mais il y a des tas d'études qui montrent exactement la même chose. Amusant, c'est également vrai pour les pour le risque de tuberculose. Vous voyez que le risque de tuberculose au cours de la polyarthrite augmente de façon extrêmement franche chez les malades cortisonnés par rapport aux malades non cortisonnés. Ça se retrouve également pour des infections virales, comme ici les infections herpétiques. Vous voyez le surrisque d'infection herpétique sous anti-TNF par rapport aux témoins ne prenant pas d'anti-TNF, eh bien on augmente de quasiment 80% le risque de résurgence d'infection herpétique. Mais pour ce qui est des corticoïdes, on est très au-delà, puisque vous multipliez jusqu'à pratiquement 3 pour une posologie de corticoïdes supérieure à 10 mg par jour. Hein? Mais regardez, entre 5 et 9 mg, ce qui vous paraîtra sans aucun doute une posologie relativement faible, eh bien on est à 2,5 en odd ratio, ce qui est tout à fait considérable. Alors, ça c'est pour le risque infectieux, mais je vous avais dit tout à l'heure que le premier risque c'était le risque cardiovasculaire. Eh bien, vous allez voir des données extrêmement voisines, là ici une cohorte de quasiment 800 polyarthrites rhumatoïdes, on a essayé de voir quelles étaient sur une période donc de suivi relativement longue, oui, entre 96 et 2001, donc sur une période de 5 ans, on enregistre 139 décès, dont 76 d'origine cardiovasculaire, et puis on va voir là encore comment se distribue le risque finalement de mortalité cardiovasculaire ou de mortalité globale en fonction de la posologie des corticoïdes, du fait qu'il y ait des corticoïdes ou pas, et puis de la posologie des corticoïdes. Mais vous voyez très clairement que pour une posologie inférieure à 4, alors on va dire inférieure à 5, ça va être plus facile, eh bien, le risque n'augmente pas de façon significative entre pas de cortisone et cortisone. Par contre, dès que vous êtes au-dessus, le risque augmente, et de façon significative pour ce qui est de la mortalité cardiovasculaire, significative pour la mortalité globale quand on est au-dessus de 10 mg, et schématiquement, vous voyez, les auteurs proposent de stratifier en fonction soit de la posologie cumulée, soit du nombre de milligrammes par jour, du delta de milligrammes par milligramme, quel est le surrisque d'accident cardiaque. Et bon, je crois qu'on peut dire quand même que ces courbes sont pas linéaires, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose d'exponentiel, mais de façon très schématique, vous voyez que le risque augmente de façon extrêmement rapide quand vous passez de 5 à entre 5 et 10 à supérieur à 10 mg par jour. Alors le risque cardiovasculaire, il a bien sûr été apprécié dans d'autres travaux, et le seul intérêt de cette plaque, c'est de montrer qu'avec une autre méthodologie, un autre travail, une autre population, puisqu'ici c'est un registre britannique, écossais, eh bien on arrive exactement aux mêmes données, et vous voyez qu'on multiplie par 3 le risque d'accident cardiovasculaire quand on est à des posologies que les Écossais considèrent comme fortes, c'est-à-dire supérieure à 7,5 mg par jour. Ce qui est quand même pas une posologie que vous jugerez probablement aussi considérable que cela. Corticoïde et hypertension, pareil, le cut-off est à 7,5 mg par jour, et vous voyez que là il y a vraiment, en dessous de 7,5, le surrisque, que vous ajustiez sur les facteurs de risque ou non, le surrisque n'est pas significatif. Dès que vous êtes au-dessus de 7,5, le surrisque est très significatif. Et vous voyez que même si vous ajustez sur le fait, par exemple sur les facteurs de risque de l'hypertension artérielle, eh bien vous avez un risque indépendant lié à la corticothérapie qui est majeur, et vous êtes toujours à 2,60 de surrisque, même en ajustant encore une fois sur les autres facteurs de risque d'hypertension. Alors l'impact cardiovasculaire des corticoïdes, je crois que vous en connaissiez déjà un certain nombre. Hein. Bien sûr, ça va modifier le profil lipidique, bien sûr, ça accélère l'athérogénèse, ça augmente l'hypertension artérielle, ça décompense des insuffisances cardiaques, et vous comprenez que quand vous additionnez tout ça, c'est évident que l'utilisation des corticoïdes va avoir un prix en termes de mortalité cardiovasculaire et de complications cardiovasculaires. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est très dose-dépendant, très largement dose-dépendant. Simplement, ce que vous appeliez une petite dose, peut-être il va falloir revenir sur ce qu'on appelait une petite dose, et que les vraies petites doses, c'est des posologies très basses. Alors, l'influence sur la mortalité globale, là encore, vous voyez que si on compare la prednisone aux autres stratégies thérapeutiques, et notamment aux biothérapies, vous voyez que le cocktail anti-TNF plus méthotrexate augmente l'espérance de vie et diminue le risque de mortalité, diminue quasiment de 40% hein, pour l'association étanercept-méthotrexate, alors que le fait de prendre de la prednisone par rapport à ne pas en prendre majore le risque de mortalité de 60%. Donc vous voyez que si on prenait simplement ces deux chiffres, vous diriez qu'à titre personnel, vous préféreriez sans doute qu'on vous mette de l'étanercept plutôt que de la prednisone. Ici, il n'est pas question de stratifier sur la posologie, on y reviendra plus tard. Risque que vous connaissez parfaitement et qui est bien sûr moins grave en termes d'impact sur l'espérance de vie, mais l'ostéoporose cortico-induite. Bien là encore, vous voyez que c'est pas pour tous les types d'ostéoporose. Le risque, il est particulièrement vrai pour les fractures vertébrales. Il est également vrai pour les fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Par contre, c'est un petit peu moins franc pour les fractures périphériques, et c'est ce qu'on va retrouver dans différentes études. Ici, vous voyez ce registre anglais là, des General Practitioners en Grande-Bretagne. Vous voyez que le surrisque, toute fracture confondue, quand on prend des corticoïdes, c'est multiplié par 1,30. Dans d'autres cohortes équivalentes que GPRD, c'est beaucoup plus, on est pratiquement à 2. Le surrisque de fracture du col fémoral, on augmente de 60%. Fracture vertébrale, là c'est vertigineux, hein, c'est vous multipliez par 2,6. Par contre, l'avant-bras, ça ne sort pas et ça sort dans aucun travail. Alors, vous voyez ici, et cette fois-ci, stratifié en fonction de la posologie, et vous voyez qu'en dessous de 2,5 mg par jour, mais vous allez me dire, est-ce que ça sert encore à quelque chose de prendre de la prednisone en dessous de 2,5 mg par jour ? De temps en temps, oui, on y reviendra, et vous voyez qu'il n'y a pas de surrisque. Entre 2,5 et 7,5, pas d'augmentation de la fracture d'avant-bras, mais de toute façon, on n'augmente jamais. Déjà, on a une augmentation significative pour la fracture du col et la fracture des vertèbres. Mais dès que vous êtes au-dessus de 7,5 mg par jour, vous voyez monter de façon vertigineuse, notamment le risque de fracture vertébrale. La seule bonne nouvelle, c'est que ce surrisque, il intervient très vite à l'introduction des corticoïdes. Donc ça, c'est pas vraiment la bonne nouvelle. C'est dans les 3 à 6 premiers mois que le risque monte de façon majeure. Ensuite, il continue à monter, mais moins vite. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est que ce risque, il diminue, et de façon relativement rapide, à l'arrêt des corticoïdes. Et quand vous avez la chance de pouvoir arrêter des corticoïdes, quasiment vous revenez au risque antérieur à la corticothérapie dans l'année qui suit. Ça, c'est une donnée nouvelle et qui n'est pas inintéressante. Dernière chose pour clore avec le chapitre des effets secondaires des corticoïdes, c'est que quand vous stratifiez sur la durée du traitement, la durée de la corticothérapie, avant que survienne le premier effet secondaire, clairement, le fait de donner des petites doses de corticoïdes par rapport à donner des fortes doses, et là on appelle forte dose entre 10 et 15 mg, c'est excessivement différent. Et vous voyez que, et en termes de sévérité des effets secondaires, et en termes de rapidité de survenue des effets secondaires, le choix d'une corticothérapie au-dessus de 10 mg est un choix que paieront vos malades dans un pourcentage de cas tout à fait magistral. Alors, à partir du moment où on a eu toute cette littérature qui allait très fortement à l'encontre de l'utilisation des corticoïdes, il y a bien sûr un certain nombre de gens, peut-être un peu plus raisonnables, qui se sont dit, mais on voit à chaque fois qu'il y a des différences cinglantes entre l'utilisation de fortes doses et de faibles doses, et on va essayer de réapprécier la littérature concernant les corticoïdes en ne s'intéressant qu'à une utilisation à faible dose. Alors, c'est pas exactement faible dose, puisqu'on va s'intéresser simplement à 10 mg, mais on va séparer aussi entre 5 et 10 mg. Et ça, c'est un travail, donc c'est un groupe d'experts qui a réuni des experts français, européens, enfin, il y a Le Guivin, par exemple, pour la France, et des experts américains. Et schématiquement, on va détailler, bien sûr, totalement cette diapositive qui est parfaitement illisible. C'est simplement pour vous dire qu'on a listé ici toutes la iatrogénicité, tout ce qu'on a décrit précédemment, tous les effets secondaires qui peuvent survenir, et vous voyez qu'à chaque fois, pour l'analyse des essais cliniques et des données de la littérature, on conclut que pour les très faibles doses de corticoïdes, il n'y a pas d'augmentation significative d'aucun des sur-risques analysés. Et c'est vrai en dessous de 5 mg. Alors, quel schéma thérapeutique on pourrait essayer de retenir pour conclure? D'abord, est-ce qu'il faut vraiment utiliser encore des corticoïdes dans la polyarthrite rhumatoïde? Est-ce qu'on ne peut pas finalement s'en passer complètement, mettre du méthotrexate à un anti-inflammatoire? Si le méthotrexate ne marche pas, aller courir très vite aux anti-TNF? Eh bien non, on a un très beau travail qui a été montré l'été dernier dans un congrès européen par une équipe italienne qui s'est proposé de faire le schéma d'essai clinique suivant. On prend un peu plus de 200 polyarthrites rhumatoïdes très récentes, moins d'un an d'évolution. On va toutes les mettre, comme à la mode rhumatologique actuelle, sous 10 mg de méthotrexate par semaine, avec un objectif de réduction du DAS28, exactement comme vous a brillamment montré Christophe tout à l'heure, au niveau des seuils acceptables, donc un DAS inférieur à 2,4, et on peut monter le méthotrexate comme on veut, et puis si le méthotrexate ne suffit pas, ajouter un anti-TNF. Donc c'est vraiment de la stratégie de routine maintenant pour les rhumatologues. Mais par contre, ces malades, on va les randomiser, tirer au sort, en deux groupes. Un groupe pour lequel on va mettre de la prednisone à 6, en fait c'est pas tout à fait 6, c'est 6,25 mg, parce qu'ils ont des comprimés spéciaux qui font 6,25. 6,25 mg de prednisone par jour, et un groupe où on ne met pas de prednisone. Et on regarde comment évolue la réponse thérapeutique, et vous voyez qu'elle évolue. Bien, finalement, on a une amplitude de réponse plus importante, une diminution du DAS moyenne qui est plus rapide et plus importante pour le bras qui prend de la prednisone que pour le bras qui n'en prend pas. Voilà ici, vous avez le nombre de rémissions cliniques obtenues donc en fonction des mois de traitement dans le bras prenant de la prednisone à 6,25 mg par rapport au bras qui n'en prend pas. Et vous voyez que le delta de rémission est toujours en faveur du bras prednisone. Et ce qui est plus spectaculaire, c'est la rémission clinique stable à 2 ans, y compris chez un certain pourcentage de patients qui ont pu arrêter un certain nombre de ces traitements. Et vous voyez que le delta est très en faveur de l'utilisation de la prednisone à très faible dose. Alors, est-ce qu'il faut continuer à utiliser les corticoïdes? Bien, réellement, je pense que oui, mais encore faut-il s'entendre sur comment. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dose acceptable à court terme, au long cours? Est-ce qu'il faut se fixer un objectif d'arrêt des corticoïdes ou est-ce qu'on peut maintenir les corticoïdes au long cours? Si on se fixe un objectif, à quel délai et comment les arrêter? Alors, en fait, je crois qu'il faut rester sur des idées extrêmement simples. Il est totalement exceptionnel et j'ai volontairement un petit peu gonflé les chiffres. Je peux vous assurer que, pour Bernard ou moi, si un interne nous met, ou un chef de clinique nous met plus de 10 mg de prednisone à une polyarthrite rhumatoïde, il va falloir qu'il s'explique et qu'il justifie pourquoi. Vous ne me prendrez qu'exceptionnellement à utiliser plus de 10 mg par jour de prednisone, y compris en pleine poussée sur une PR parfaitement active. La barre, le cut-off habituel, c'est 0,15 mg kilo, ce qui correspond à, pour une personne de 60 kg pardon, à une posologie de l'ordre de 9 mg par jour. Et il est très exceptionnel que nous utilisions les corticoïdes à une posologie supérieure à cette posologie d'attaque dans la polyarthrite rhumatoïde. Et avec un objectif de réduction des doses extrêmement rapide, donc utiliser la période la plus courte possible et au long cours, les posologies qui sont véritablement acceptables sont situées en dessous de 0,10 mg par jour, c'est-à-dire 5-6 mg de cortensile. Alors comment on fait pour arriver à des doses aussi faibles? Eh bien il y a deux stratégies qui sont majeures. C'est un, quand on réduit les doses, c'est une réduction extraordinairement progressive et milligramme par milligramme avec des paliers d'un à deux mois. Ça, c'est une règle absolue pour réduire la corticothérapie sans assister à un phénomène de rebond. Et l'autre chose, c'est éventuellement de stratifier les doses en deux prises par jour, contrairement à ce que recommandent habituellement les endocrinologues, deux tiers de la posologie le matin, un tiers de la posologie le soir, ce qui vous permet de mieux couvrir la nuit, d'éviter le réveil matinal et le dérouillage matinal, et ça permet d'ajuster les corticoïdes à la plus faible posologie qui soit. Alors, J'ai triché là pour cette diapositive. En fait, la corticothérapie a complètement été réanalysée. L'utilisation de la corticothérapie en rhumatologie a complètement été réanalysée par un collègue hollandais cet été, donc au congrès européen. Et il y avait un amphithéâtre beaucoup plus grand que le nôtre ce soir. Et il a dit, je vais faire plaisir aux Français qui sont certainement dans la salle et je vais comparer l'utilisation des corticoïdes au French Paradox. Pour l'utilisation du vin. Maintenant, tout le monde est d'accord, même quand on n'est pas français d'origine, tout le monde est d'accord que finalement une petite quantité de vin, et surtout quand c'est du Bordeaux bien entendu, est quelque chose de tout à fait bénéfique pour l'organisme, et probablement tout le monde sera aussi d'accord pour considérer qu'au-delà de 2-3 litres par jour, ça commence à être excessif. Eh bien, les corticoïdes sont totalement assimilables et comparables à ce qu'est le vin, probablement qu'une très faible dose est un appoint thérapeutique tout à fait convaincant dans la polyarthrite rhumatoïde, permet d'éviter d'aller trop fort dans les autres traitements de fond et de passer trop vite, par exemple, à une biothérapie. Mais attention à ne pas franchir le cap irréversible qui vous transforme un malade en cet affreux sujet sur la partie gauche de la diapositive. Les corticoïdes à forte dose donnent la coupe rose, donnent le nez rouge, enfin exactement comme le vin en quantité abusive, et malheureusement aussi beaucoup d'autres effets secondaires, et vous avez vu ne serait-ce que les infarctus et les accidents infectieux. Donc en conclusion, je crois vraiment que les corticoïdes sont certainement un appoint indispensable, et là on n'a parlé que de la polyarthrite rhumatoïde. Si on parlait de lupus, si on parlait de pseudo-polyarthrite rhizomélique, si on parlait de Horton, il est évident qu'on a besoin des corticoïdes, mais attention, c'est la meilleure et la pire des choses, et vraiment une utilisation extrêmement raisonnée de la corticothérapie, en s'efforçant de ne jamais commencer à trop forte dose, parce que ça va être beaucoup plus difficile de réduire ensuite, et de se mettre d'accord qu'une dose relativement forte, c'est autour de 10 mg, et qu'une dose faible, c'est 5 mg, voilà, et en dessous, eh bien, on aura certainement déjà tous franchi un sacré cap, parce qu'encore une fois, les corticoïdes, obligatoirement, vous les manipulez au quotidien, et nous, je peux vous dire, quand on reprend des malades qui, par exemple, ont eu un épisode de sinusite, des polyarthritiques qui ont eu un épisode de sinusite, qui ont par malheur croisé un ORL, qui utilise la corticothérapie en cure courte, vous savez, cette idée qui fait son chemin, et avec un passage pendant quelques jours ou quelques semaines à 60 mg, puis 40, puis 20, ben nous on met 6 mois à rattraper la situation et à revenir aux posologies acceptables au long cours, eu égard au risque, encore une fois, cardiovasculaire, infectieux, osseux, oculaire, etc., que comporte cette corticothérapie au long cours. Je vous remercie. Alors, vous avez droit à une petite question en cette heure tardive.
Oui ?
Alors, oui, bien sûr. Alors, c'est le truc le plus compliqué, surtout que Patrick est là. Alors, personnellement, si vous voulez, dans le Horton, on va séparer deux situations. Si vous faites un diagnostic d'artérite gigantocellulaire avec une cécité déjà, ou alors des épisodes ischémiques transitoires, une instabilité neurologique, bon là, personne ne joue, hein, et on est tous d'accord qu'on va démarrer avec une posologie élevée. Je vous jure que je vais répondre après sur ce que c'est qu'une posologie élevée. Pour toutes les autres situations où il n'y a manifestement pas d'urgence, pas d'instabilité vasculaire, si vous voulez, nous, alors là vraiment, il y a toute une littérature, je vais simplifier, hein, mais qui permet d'être absolument formel, on peut diminuer à beaucoup plus faible dose, mais par contre, on ajoute un anti-agrégant plaquettaire qui permet certainement de diminuer le risque d'accident thrombotique artériel au cours d'une artérite inflammatoire. Donc nous, si vous voulez, en l'absence de signes d'urgence, on démarre très volontiers autour de 15 ou 20 mg de cortensil en dose d'attaque, associée à de l'aspirine faible dose, et cette posologie, on va la maintenir jusqu'à correction de la symptomatologie clinique, s'il y a une symptomatologie clinique, et correction des paramètres biologiques. Et dès que la CRP se normalise et la vitesse d'alimentation commence à se réduire, on engage la réduction progressive de dose. Quand il y a une instabilité, un risque ophtalmologique imminent, de toute façon, le malade échappe au contrôle du rhumatologue et les ophtalmos sont restés calés sur la posologie d'un milligramme kilo. 1 mg kilo, il y a énormément de travaux qui montrent qu'on déstabilise beaucoup, beaucoup de choses chez un sujet âgé, l'émergence d'un diabète, des troubles psychiatriques, et puis, ce qu'on oublie très souvent de dire, des accidents neurologiques. Et il y a d'authentiques AVC qui sont déclenchés par l'introduction d'une corticothérapie à forte dose chez un sujet dans une tranche d'âge qui est celle du Horton, 70-80 ans. Voilà. Donc pour nous, la posologie d'attaque qui serait, je crois qu'au-delà de 20-30 mg, de notre point de vue, c'est déjà beaucoup trop. Alors pour la PPR, c'est encore pire. La PPR, moi je les attaque comme les polyarthrites rhumatoïdes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence à traiter une pseudo-polyarthrite rhizomélique. Si vous mettez 8-9 mg et que votre malade va très très bien, à quoi ça sert de lui donner le double ? Voilà. Par contre, si à 8-9 mg, votre PPR, elle va un peu mieux, mais pas bien, ben déjà, la première chose, il faut commencer à rediscuter le diagnostic. Et puis, une fois que vous avez rediscuté le diagnostic, si vous êtes bien sûr que c'est une PPR, là, ben, montez d'un ou deux milligrammes et allez chercher progressivement la posologie minimale efficace. Mais personnellement, et je crois qu'on partage tous cette impression en rhumatologie, puis je crois qu'en médecine interne, tout le monde évolue vers ça à l'heure actuelle, on préfère attaquer plus bas, pour limiter la iatrogénicité au long cours et éventuellement ajuster le tir en fonction de la réponse clinique et biologique. Alors, oui, il y a toute une littérature, c'est ce que qui est déjà pour nous relativement ancienne. Alors, mais probablement, non, vous voulez dire dans le Horton ou la PPR ? Oui. Alors, nous, dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a toute une littérature qui date du début des années 90 sur l'utilisation de ce qu'on appelait des bolus. C'est-à-dire que pour passer un mauvais cap, on utilisait une corticothérapie, donc du solumédrol, en perfusion intraveineuse, à relativement forte dose, pendant quelques jours simplement, pour réduire l'activité clinique et biologique. Et ensuite, on reprenait une corticothérapie traditionnelle, avec de la prednisone par voie orale, à dose beaucoup plus faible. Ça, quasiment, c'est abandonné. Hein. En rhumatologie, on a vraiment montré qu'il n'y avait pas de bénéfice à ce type de stratégie, et ça a été complètement abandonné pour la polyarthrite rhumatoïde. C'est de temps en temps proposé, effectivement, notamment dans les pays anglo-saxons, dans le traitement d'attaque d'une artérite gigantocellulaire, donc d'une maladie d'Horton, pour éviter justement de donner un traitement d'attaque par voie orale à une dose forte. C'est-à-dire qu'on donne quelques jours, 3-4 jours de solumédrol à 100 ou 200 mg jour, et ensuite on va arrêter les perfusions pour réintroduire une corticothérapie orale à beaucoup plus faible dose, entre 15 et 20 mg. Alors, encore une fois, il n'y a pas un Horton, si vous voulez, l'artérite gigantocellulaire peut toucher quelques vaisseaux, quelques branches de division de la carotide primitive, et à ce moment-là, les délais de correction, ça va être extrêmement rapide, ça va être sur 2-3 mois, maximum. Voilà. Maintenant, il est évident qu'on se rend compte, avec des techniques d'investigation un petit peu plus lourdes, comme le TEPSCAN, qu'un certain nombre des malades qu'on croyait être atteints simplement d'une pseudo-polyarthrite rhizomélique, ils répondent pas bien, la CRP se normalise pas, et puis on fait un TEPSCAN et on se rend compte qu'ils ont toute l'aorte, ou les premières branches de division de l'aorte qui sont atteintes donc par un granulome inflammatoire, et donc il y a un Horton des gros troncs, et là ça va mettre infiniment plus de temps, bien entendu, et probablement il va falloir utiliser des posologies un peu supérieures pour arriver à la normalisation des signes cliniques et biologiques. Alors, non, effectivement, pour l'instant il n'y a pas de démonstration formelle que les biothérapies, en particulier les anti-TNF, traite de façon efficace la maladie d'Horton. Alors, cependant, les protocoles qui ont été pour l'instant utilisés et les rares publications qu'on a, c'est pas très satisfaisant. Il y a un protocole actuellement qui est en cours à l'assistance publique à Paris, et il y a d'autres protocoles qui se dessinent, parce qu'il est très probable que l'anti-TNF soit pas la bonne molécule, et qu'on aura probablement beaucoup plus de chances d'être efficace avec des inhibiteurs de l'IL-6. Voilà. Le Horton, on ne va pas entrer dans les détails, mais est très dépendant de l'IL-6. C'est pour ça qu'il y a des taux de CRP faramineux généralement, et c'est probablement une bien meilleure cible pour espérer traiter ce type de vascularité. En tout cas, ce qui est parfaitement démontré, pas dans le Horton, mais dans d'autres pathologies, c'est l'épargne en cortisone que permet l'utilisation des biothérapies au sens large.